Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Votre patient est dans un état stable, on va dire rassurant, même s'il conserve une toux persistante, contrôlée, et des épisodes de fièvre.
Et vous venez de l'entendre, des nouvelles rassurantes ce soir du patient bordelais atteint de coronavirus. 3 personnes en France sont touchées pour l'instant.
3 patients qui ont pu être détectés très rapidement grâce à un test mis au point quelques jours seulement après l'émergence du virus. Les chercheurs du monde entier se sont mis au travail.
L'embellie se poursuit, le nombre de demandeurs d'emploi en France en nette baisse l'an dernier. On va décrypter ces chiffres dans une petite minute avec Emmanuel Duteil.
Europe 1 a suivi aujourd'hui Édouard Philippe à Auschwitz en ce 75e anniversaire de la libération du camp nazi.
Puisque vous avez la chance d'être venu ici, il vous appartiendra désormais de faire en sorte que collectivement nous n'oublions pas qu'il y a eu ici un des pires exemples d'inhumanité.
Se faire rembourser ses billets de train annulés lors de la grève, c'était une promesse de la SNCF. Certains ont été rapidement dédommagés, d'autres attendent encore.
Et puis le choc, toujours après la mort brutale et inattendue d'une légende du sport.
Kobe Bryant, l'ex-star du basket, mort avec sa fille de 13 ans et 7 autres personnes dans le crash d'un hélicoptère. Hommage unanime.
We love you, Kobe! We love you! Thank you, Kobe!
Et on rejoindra Xavier Yvon aux États-Unis où les hommages pleuvent, vous l'entendez, où les circonstances de ce crash également posent quelques questions. La Bourse de Paris a terminé ce soir en forte baisse de 2,68% à 5863 points, plombée par les craintes pour l'économie en raison du coronavirus.
Et du côté du ciel, bonsoir Anissa.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Alors nous avons une perturbation qui est en train de traverser la France. Demain c'est un ciel de traîne, donc encore une journée bien grise avec beaucoup de pluie, du vent, de la neige presque partout. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Isabelle Mille.
Et c'est donc une bonne nouvelle sur le front de l'emploi. On n'a pas souvent l'occasion d'en annoncer. Sur un an, le nombre de chômeurs a reculé l'an dernier.
Un chiffre officiel fourni d'ailleurs à la mi-journée par Pôle emploi.
Bonsoir Emmanuel Duteil.
Bonsoir.
Chef du service économie d'Europe 1. Emmanuel, ce millésime 2019 est tout simplement l'un des meilleurs de la décennie écoulée.
Et oui, il faut remonter à l'année 2007 pour trouver une baisse plus importante du chômage sur un an, c'est dire. Concrètement, si on regarde l'année 2019, le nombre de demandeurs d'emploi a baissé de plus de 3% si on regarde l'intégralité du territoire français. C'est ce que l'on appelle la catégorie A, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas du tout travaillé au cours des derniers mois. Si on regarde cette fois toutes les catégories et qu'on intègre ceux qui ont donc un tout petit peu travaillé, et on considère que c'est généralement plus représentatif de la tendance, bah là aussi, la baisse est extrêmement notable et à peu près dans le même étiage. Il faut voir que sur le dernier trimestre de l'année, je vous donne encore un petit chiffre, c'est le 5e trimestre consécutif de baisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tendance de baisse du chômage est enfin bien installée. Toutes les tranches d'âge, en plus, se profitent de cette embellie, mais ceux qui en profitent le plus, ce sont les moins de 25 ans. L'amélioration est beaucoup moins notable pour les plus de 50 ans. Le chômage de longue durée recule lui aussi.
Alors, ces chiffres, Emmanuel, ça, c'est acquis, mais comment on l'explique cette baisse?
Alors, quand on regarde dans le détail, c'est assez simple. Ce sont les créations d'emplois qui ont été très dynamiques et elles ont été supérieures à l'augmentation de la population active. Donc, ça permet naturellement de faire reculer le nombre de demandeurs d'emploi. On commence aussi sûrement, au travers de ces chiffres, à voir les premiers effets de la réforme de l'apprentissage. On voit que, par exemple, en cette rentrée, on était à des chiffres records. Et sûrement aussi les premiers effets de la réforme de la formation. Il y a aussi, même si la croissance est un peu plus compliquée aujourd'hui, une amélioration quand même de la situation économique. C'est en tout cas une excellente nouvelle et ça renforce l'objectif du gouvernement d'arriver à 7% de chômeurs d'ici à la fin du quinquennat.
Merci beaucoup Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1. Cela faisait donc 12 ans, si j'ai bien fait le calcul. Merci. L'autre grand titre, Isabelle, qui nous préoccupe ce soir, c'est bien sûr le coronavirus et son évolution.
Oui, 3 personnes contaminées en France, un couple hospitalisé à Paris, dont l'état de santé est plutôt encourageant. Un homme également à Bordeaux, le CHU où il a été admis en fin de semaine dernière, se veut ce soir plutôt rassurant.
Écoutez le professeur Denis Melvy qui s'occupe de ce patient.
Notre patient est dans un état stable, on va dire rassurant, même s'il conserve les signes de sa présentation initiale, c'est-à-dire une toux persistante, soutenue, quelquefois inconfortable, invalidante, contrôlée, et des épisodes de fièvre.
Vous disiez qu'il y a des caps à passer. La semaine, c'est un cap?
La semaine, c'est un cap, parce qu'on sait que certains agents infectieux, comme les virus, d'abord envahissent l'organisme, et puis au bout d'une semaine, l'organisme va tenter de s'en débarrasser. Soit il le fait de manière efficace, soit quelquefois il peut le faire d'une manière inapproprié. Donc vu qu'on ne connaît pas l'évolution de cette maladie nouvelle, mais dont on sait qu'elle est due à un virus dont la famille a déjà fait parler de lui à travers le SRAS ou le MERS-CoV, nous sommes extrêmement vigilants sur ce qui se passe dans les maladies causées par les virus un peu de la même famille. Donc le cap de la première semaine est un cap qui retient tout à fait notre attention.
Voilà le professeur Denis Malvy qui répondait à Stéphane Place pour Europe 1. Et on s'intéresse ce soir sur notre antenne à ce test qui permet justement de dépister ce coronavirus. Ce test mis en place ultra rapidement, quelques jours seulement après l'émergence du virus.
Et on en parle avec vous. Bonsoir Eve Roger.
Bonsoir.
Alors on a envie de comprendre, Eve, comment a-t-on pu mettre en place si vite ces tests de diagnostic ?
Eh bien, c'est bien simple. Dès que les Chinois ont identifié le virus, ils ont tout de suite rendu publique la séquence génétique exacte de ce virus. Ils doivent le faire sans délai ni restriction. C'est la règle. Alors, ils l'ont mis sur une plateforme internationale où tous les chercheurs du monde ont accès, une espèce de YouTube des scientifiques. Et c'est après qu'a démarré une sorte de compétition entre pays. Qui va être le premier à découvrir le test diagnostique pour ce virus ? Et c'est une équipe allemande qui a gagné. Elle a été la première à publier son outil de dépistage, validé ensuite par l'OMS, c'est la seule aujourd'hui. Même si en France, l'Institut Pasteur a aussi mis en place son test, comme d'autres pays dans le monde, avec la Chine évidemment. Aujourd'hui, tous les échantillons français arrivent à l'Institut Pasteur, où l'on utilise la méthode française et la méthode allemande. Sylvie Bailly de Pasteur nous explique comment.
Alors, on reçoit des prélèvements respiratoires. En général, c'est un prélèvement nasopharyngé. En fait, c'est un espèce de long coton-tige qu'on va introduire dans le nez assez profondément. Et là, on récupère quelques cellules. Et nous, ce qu'on va analyser, c'est le milieu dans lequel baigne le coton-tige. Et en une demi-journée, on rend un résultat.
Et l'objectif maintenant, c'est de diffuser d'ici une semaine ces tests sur l'ensemble du territoire, dans les hôpitaux équipés pour accueillir ce genre de malades.
Tout est très clair maintenant. Merci beaucoup, Eve Roger, chef du service Société d'Europe 1, alors que l'on attend toujours de savoir comment va se passer le rapatriement des Français qui vivent à Wuhan, le berceau du virus en Chine.
Ah oui, les autorités sont en train de l'organiser, ce rapatriement qui sera suivi d'une quarantaine. On imagine que c'est pour le moins compliqué à mettre en place, car cela concerne potentiellement des milliers de personnes. On vous tiendra bien évidemment au courant dès qu'on aura nous-mêmes des précisions.
Évidemment, noté que la ville de Pékin annonce un premier cas mortel ce soir. La Mongolie a décidé de fermer ses frontières terrestres avec la Chine. L'Allemagne appelle à éviter les voyages non indispensables dans ce pays. Et puis le Canada annonce ce soir un deuxième cas présumé en Ontario.
Et par ailleurs, le secteur du tourisme commence à s'inquiéter, et pour cause.
Et oui, avec plus de 2 millions de visiteurs par an, les Chinois représentent une clientèle de poids pour la France. Et sont surtout les plus dépensiers. Une manne qui pourrait pâtir effectivement des effets du coronavirus en cas de ralentissement des flux touristiques en provenance de la Chine.
Il est 18h07, vous écoutez Europe 1, la suite du journal. Nathalie Lévy, Isabelle Millet.
Vous non plus, vous n'avez pas eu de train pendant la grève, voilà. Et vous non plus, vous n'arrivez pas à vous faire rembourser. Rassurez-vous, tout vient à point, à qui c'est attendre.
Oui, c'est la promesse en tout cas de la SNCF. Bonsoir Aurélien Fleureau.
Bonsoir.
C'est un parcours du combattant quand même, il faut être clair pour obtenir ces remboursements.
Oui, en tout cas, il faut savoir être patient. Selon Voyage SNCF, 2/3 des demandes ont été traitées et toutes le seront d'ici une dizaine de jours. Sauf qu'il reste effectivement beaucoup de clients qui attendent parfois depuis 3 semaines, 1 mois. Ce qui retarde le processus, c'est notamment si vous avez payé en liquide ou en chèque vacances. Ça explique aussi certains délais. Alors, les plus chanceux ont donc pu être remboursés en quelques jours, sauf qu'il ne faut pas s'attendre à un virement sur votre compte bancaire. Même si vous avez payé en ligne par carte, vous aurez un bon d'achat. Alors, s'il est valable 1 an, c'est non nominatif, donc utilisable par vos proches. Mais si vraiment vous tenez à recevoir un virement, là, il faut faire une deuxième réclamation et donc attendre encore un peu plus. La SNCF explique ses délais par un nombre record de réclamations reçues par son service client, l'équivalent d'un semestre de dossier en seulement 1 mois.
Bon, c'est pas gagné, mais c'est garanti, vous nous le dites. Et où on en est, Aurélien, du côté de la promesse de remboursement du pass de transport, cette fois pour les franciliens qui, eux aussi, ont beaucoup souffert de la grève.
Oui, alors côté RATP, ça arrive également. Ce sera cette semaine, très certainement, à partir de vendredi le 31, une plateforme de remboursement qui sera mise en ligne par Île-de-France Mobilité, donc l'autorité organisatrice des transports dans la région. Vous pourrez enfin faire la démarche pour être remboursé de vos 75,20 €. Donc méfiance d'ici là, tous les sites qui existent déjà sont des faux, donc uniquement celui qui sera lancé par Île-de-France Mobilité.
C'est important, en effet. Merci Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.
Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Isabelle Millet et Nathalie Lévy.
À suivre dans votre journal de 18h, Édouard Philippe à Auschwitz pour le 75e anniversaire de la libération du camp nazi.
Et puis le monde du sport qui pleure la disparition de l'immense star du basket, Kobe Bryant.
C'est votre grand journal du soir, 2 heures d'infos jusqu'à 20h sur Europe 1. 18h10 sur Europe 1, la suite du journal avec Isabelle Millet et Nathalie Lévy.
L'antisémitisme, ce n'est pas le problème des Juifs, c'est notre problème à tous, a martelé Emmanuel Macron aujourd'hui au mémorial de la Shoah, en ce 75e anniversaire de la libération du camp nazi d'Auschwitz. Lui est resté à Paris dans le Marais précisément.
Oui, tandis qu'Édouard Philippe justement était lui à Auschwitz pour cette journée placée sous le signe du recueillement et toujours bien sûr du devoir de mémoire. Le reportage sur place pour Europe 1 de Jean-Rémy Baudot.
Vous êtes resté combien de temps à Auschwitz ?
Pas longtemps. Le temps de nous embarquer pour des travaux forcés en Allemagne.
Autour d'Isabelle Choco, 91 ans, une poignée de lycéens, debout, attentifs.
On a travaillé tout l'hiver sous la neige. Je me dis, comment est-ce que j'ai pu survivre ? C'est pas possible.
La faim, le froid, l'après-guerre, les questions sont précises. Tout le monde écoute. Même Édouard Philippe, pourtant censé lancer un dialogue, restera à écouter sans dire un mot. Lauriane.
On ne se rendait pas vraiment compte en classe de ce que c'était et on se rend beaucoup plus compte maintenant.
Pour tous les jeunes présents, le besoin de comprendre. Joachim, en terminale scientifique.
C'est vrai que ça fait réfléchir. Comment est-ce qu'on en arrive là, à un tel stade de déshumanisation, pour au final terminer sur un meurtre de masse comme ça, un génocide.
Pour clore cette séquence, Édouard Philippe a finalement pris la parole devant un wagon ayant servi à la déportation. La voix troublée, il exhorte les lycéens à perpétuer cette mémoire.
Puisque vous avez la chance d'être venu ici, il vous appartiendra désormais, lorsque vous le pourrez, de dire ce que vous avez vu et de faire en sorte que collectivement nous n'oublions pas qu'il y a eu ici un des pires exemples d'inhumanité et qu'il ne faut pas l'oublier.
Auschwitz, Jean-Rémy Baudot, Europe 1.
Voilà le reportage de Jean-Rémy Baudot sur place, le devoir de mémoire. On va en parler dans quelques minutes avec mon invitée. Elle se fait rare dans les médias. On est d'autant plus heureux ce soir de la recevoir, la philosophe et féministe Sylvia Nagasinski.
Et dans ce contexte, un message audio inquiétant hein, aujourd'hui de l'État islamique qui dit vouloir lancer une nouvelle phase d'attaque en ciblant Israël. Le nouveau chef de l'organisation terroriste affirme vouloir combattre spécifiquement les juifs. On y reviendra dans le journal de 19h tout à l'heure avec Gwendoline Debono.
Près de 24 heures après l'annonce de la disparition tragique du basketteur Kobe Bryant dans un accident d'hélicoptère, l'émotion est véritablement immense. Hein.
Oui, de Donald Trump à Barack Obama, on a entendu énormément d'hommages hein, qui se sont succédés aujourd'hui. On retiendra surtout, bien sûr, ceux du monde du sport où la star était unanimement appréciée. C'est un choc qui dépasse largement les frontières de l'Amérique. Xavier Yvon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Bonsoir Xavier.
Bonsoir.
Beaucoup d'émotions chez vous, bien sûr, mais aussi pas mal de questions hein, sur ce crash.
Ah ça oui, impossible d'échapper au grand sourire de Kobe Bryant. Son visage est partout à la télé, en première page des journaux, de la côte ouest à la côte est, sur les six colonnes à la une, bien sûr, du Los Angeles Times, le quotidien d'une ville en deuil. Ses habitants ont déposé des fleurs, des bougies, des peluches et des petits mots devant le Staples Center, la salle où il a écrit sa légende pendant 20 ans. On a vu des joueurs hier soir sur les parquets de la NBA en pleurs. Le drame touche d'autant plus les Américains que la fille de Kobe Bryant, Gianna, 13 ans, a elle aussi été tuée dans l'accident. Elle était son héritière sportive, elle-même grand espoir du basket. Et sur Internet, les fans partagent une vidéo très touchante où l'on voit le père entraîner sa fille avec tendresse. 9 personnes en tout sont mortes à bord de cet hélicoptère qui s'est écrasé sur une colline. Alors on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, juste qu'il y avait un brouillard intense au point que même la police de Los Angeles avait cloué au sol ses appareils. L'accès au site du crash est très compliqué. Ça pourrait prendre plusieurs jours pour récupérer les corps, accéder aux données de l'appareil et donc avoir des réponses.
Merci beaucoup Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 en direct ce soir depuis New York.
Merci Isabelle Millet, vous revenez évidemment à 18h30 pour un nouveau journal complet. Anissa, encore un temps agité demain ?
Oui, effectivement Nathalie, en début de journée sur le Languedoc-Roussillon, la vallée du Rhône, la Provence et la Côte d'Azur. Votre journée dans ce secteur va commencer avec des brouillards matinaux, prudence hein, si vous devez prendre la route. Au fil des heures, ces brouillards vont se dissiper et l'après-midi, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies. Et dans le sud-est, c'est le seul endroit où il fera sec demain. Voilà, en Corse, il va pleuvoir sur les reliefs et ça va se dégager dans l'après-midi. Sur les Vosges, le Jura, les Alpes, il pleut parfois à basse altitude à partir de 400 mètres. Sur tout le reste du pays, c'est un ciel de traîne avec quelques petites éclaircies, mais surtout beaucoup d'averses, des averses qui pourront prendre un caractère orageux, notamment sur le Cotentin et la Bretagne. Le vent de sud-sud-ouest souffle toujours très fort, demain jusqu'à 90 km/h, 120 km/h sur la côte atlantique. Les températures sont douces demain matin, 2 à 10 degrés.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir avec votre invitée Nathalie Lévy.
75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. Emmanuel Macron a inauguré aujourd'hui le mur rénové des noms du mémorial de la Shoah dans le Marais, à Paris. Le président a promis de continuer à raconter la Shoah, à conduire le devoir de lucidité, dit-il. On en parle avec mon invitée, la philosophe et féministe Sylvia Nagasinski. Elle s'installe dans un instant
votre
dans ce studio.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1, Nathalie Lévy. Édouard Philippe était à Auschwitz aujourd'hui. Emmanuel Macron au mémorial de la Shoah à Paris. Le président qui s'est engagé à continuer sans relâche à raconter la Shoah. Nathalie, vous recevez ce soir la philosophe Sylvia Nagasinski.
Bonsoir Sylvia Lagazinski.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation ce soir. Vous êtes philosophe féministe engagée. Votre dernier ouvrage, L'homme désincarné, du corps charnel au corps fabriqué chez Gallimard. Je le signale parce que ces questions de bioéthique, on va y venir dans un petit instant. Vous en avez évidemment parlé dans votre livre et vous y travaillez depuis le début des années 2000. C'est dans la deuxième partie de cette interview. Alors Jérusalem, la semaine dernière, cérémonie et nouvelle inauguration aujourd'hui au Mur des Noms à Paris dans le Marais. Précisément en cette date de journée internationale à la mémoire des victimes de la Shoah, la France réagit à la hauteur de l'horreur du passé ?
Je pense que oui, c'est pas nouveau, mais c'est très important de voir à quel point la France et ceux qui la représentent restent profondément touchés par l'histoire. Et évidemment, on connaît aussi la problématique du rapport entre la mémoire d'un côté et l'histoire. Vous parliez de la visite à Auschwitz. J'ai fait cette visite il y a déjà un certain nombre d'années. Et je crois que j'ai compris à cette occasion justement la différence profonde entre l'histoire, qui certes est faite de traces, y compris celle-là, et les traces, les témoignages, tous les témoignages, tous les faits, ouais. toutes les traces, et puis le fait d'être en présence de ces traces, de ces restes, sur l'endroit même. Quand vous voyez les rails sur lesquels arrivaient les trains, quand vous voyez les monceaux de cheveux, les monceaux de paires de lunettes, les tas de valises des gens qui ont été massacrés là, ça c'est quelque chose qui, même si vous, vous ne l'avez évidemment pas vécu, mais c'est quelque chose qui parle à la sensibilité, qui parle à l'expérience humaine. On se rapproche de ça. Et je me souviens que toute cette visite, nous l'avons faite, on ne pouvait pas dire un mot.
Ouais. Mais justement,
on ne pouvait pas parler.
Bien sûr, Sylvia Lagazinski, cette présence sur place, elle est importante et les scolaires y vont, et d'ailleurs pas seulement hein, les élèves. Mais vous vous souvenez peut-être cette phrase dans les années 2000-2002 exactement, « L'ère des témoins s'achève », c'est Simone Veil qui le disait, elle s'en était déjà émue et elle se posait la question, et je vous la pose ce soir, quel sera l'effet sur la commémoration et sur la transmission de la Shoah aux jeunes générations quand les derniers témoins ne seront plus là ?
Je crois que Simone Veil, si je me rappelle bien, n'aimait pas tellement l'expression « devoir de mémoire », peut-être parce que, non pas parce qu'elle le niait, je crois qu'il y a une dimension universelle, anthropologique, de la mémoire comme devoir, c'est-à-dire comme dette à l'égard de ceux qui sont morts. C'est nos anciens, c'est nos parents, c'est ceux qui ont combattu, c'est les résistants, c'est les victimes de grandes catastrophes. On a ce sentiment de dette. Si on ne l'a pas, en revanche, on ne peut pas vous l'imposer du dehors. Et puis, parallèlement à ça, il y a la transmission à laquelle elle tenait beaucoup, la transmission, l'enseignement, qui se fait à la fois à travers... On a des enregistrements des témoins, on a des textes écrits aussi, on a Robert Antelme, on a Primo Levi, on a Georges Semprin pour les camps aussi. Je pense que cette mémoire, elle a déjà de multiples traces qui resteront par
vous
rapport
pensez,
au décès.
Vous êtes rassurée là-dessus véritablement ? Parce que quand on voit les chiffres aujourd'hui, quand on voit que plus d'un tiers des Juifs de France se sentent aujourd'hui menacés, quand on voit la méconnaissance de la Shoah aussi, pour les moins de 38 ans notamment, on se dit, est-ce que cela va suffire, ces témoignages, ces écrits, même ces images ? Est-ce que cela va suffire véritablement, selon vous ?
On ne peut jamais en être certain, donc il faut y travailler, c'est sûr. Et il est sûr qu'il y a une résistance au devoir de mémoire. Il y a une résistance aussi à la mémoire de faits qui sont controversés par certains, à travers certaines idéologies. Il y a une résistance, il y a des fois une dénégation, une négation, un négationnisme. Et donc le travail doit être fait constamment. Et si cette mémoire est aussi importante, c'est aussi bien entendu pour comprendre le présent, comprendre ce qui se passe aujourd'hui, et notamment pour lutter au moyen du droit, par exemple, contre les violences antisémites qui continuent d'exister,
Bien
les
sûr.
Crimes antisémites.
Et alors Sylvia Lagazinski, quand Emmanuel Macron, dans l'avion de retour depuis Jérusalem, compare la Shoah et ses 6 millions de Juifs exterminés à la guerre d'Algérie, le président se dit alors convaincu que la France doit revisiter la mémoire de la guerre d'Algérie pour mettre, dit-il, un terme au conflit mémoriel. Qu'est-ce que cela vous inspire ?
Alors ça, j'ai pas entendu cette phrase-là, elle m'inspire pas grand-chose, j'ai du mal à la comprendre telle que vous la rappelez. En revanche, j'ai été beaucoup plus intéressée par ce qu'il a dit sur le besoin de procès à l'occasion
de l'affaire Sarah Halimi,
Alors, il prend position
très clairement.
Je n'ai pas eu le sentiment qu'il prenait une position en agissant sur la justice, pas du tout. Il a juste constaté le fait qu'il y avait
un recours auprès de la Cour de cassation. Bon, la justice suit son cours. Et d'autre part, il a évoqué ce qui lui était remonté aussi du pays et d'un certain nombre de citoyens, à savoir ce besoin de procès. Moi, ça m'intéresse beaucoup.
Il dit à ce moment-là, parler avec le cœur, d'ailleurs.
Oui, mais ça m'intéresse beaucoup, ce devoir de procès, parce qu'à quoi ça sert, un procès ? Un procès, ça sert à la fois à rappeler la loi, à rappeler la transgression de la loi, à chercher les responsabilités, les conditions d'un meurtre, quelle est la responsabilité aussi du meurtrier, y compris en tenant compte des idéologies. Quand quelqu'un tue au nom de Al-Akbar, et surtout par antisémitisme, et là c'était bien le cas, la question se pose aussi de la responsabilité de cette pensée, mais même de cet homme aussi. Parce que si vous voulez, l'absence de procès, vous savez sans doute que dans notre code civil, il y a l'article 122, si je prends le temps, qui consiste à dire qu'il y a une différence entre l'altération
des
capacités mentales et l'abolition. Si on dit altération des capacités mentales, ça veut dire qu'il peut y avoir procès et jugement. Si on dit abolition, il n'y aura pas. Mais s'il n'y a pas de procès, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de justice rendue, il n'y a pas d'explicitation des faits. Moi, à titre tout à fait personnel, je pense que lorsqu'on a des crimes, non seulement des crimes barbares, des crimes racistes, antisémites, des crimes comme celui aussi, les tortures d'Ivan Halimi, enfin, il faut quand même s'en souvenir, il a été jugé. Là, dans ces crimes, on doit d'abord, il me semble, essayer de rendre la justice. Et si ensuite les experts expliquent dans quel état, quels sont les problèmes, ou exactement éventuellement maladie mentale ou pas maladie mentale du meurtrier, alors on peut considérer les aménagements de la peine.
Mais alors, vous avez entendu les plus hauts magistrats rappeler aujourd'hui l'indépendance de la justice.
Bien sûr, bien sûr.
Donc pour vous, Emmanuel Macron, compte tenu là des faits, parce que ce fait, ce drame autour de Sarah Halimi est dans cette particularité, dans cette singularité là, son devoir de réserve. Vous acceptez,
je ne me permettrai pas de juger ça, je ne l'ai pas entendu comme ça, je l'ai vu comme une réflexion de la liberté de l'esprit d'un représentant qui est représentant de la République, président de la République, et non pas comme une immixtion, personnellement, dans la justice. Moi, je trouve que non seulement il a le droit, mais enfin, il peut faire appel à sa conscience et dire que dans certains cas, il serait peut-être bien bon, sans agir directement, que des procès aient lieu.
Alors voilà sur cette première partie sur laquelle je voulais vous interroger aujourd'hui, évidemment, ces commémorations. Et puis bien entendu, je connais vos engagements. On a cité votre livre, Sylviane Agazinski, ce dernier ouvrage, L'homme désincarné, du corps charnel au corps fabriqué chez Gallimard, sur lequel vous vous interrogez sur les questions de bioéthique. C'est le cas d'ailleurs depuis 10 ans quasiment. Alors, on est au Sénat, ça y est, avant le vote, mardi prochain. Les sénateurs ont d'ores et déjà adopté l'article ouvrant la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. Le gouvernement parle aujourd'hui d'un texte de progrès. Que dit la féministe, la philosophe aussi, la féministe de gauche que vous êtes ?
Alors, je suis d'abord philosophe, ensuite féministe, mais je suis proche d'un féminisme américain qui est aussi un féminisme social et pas libéral. Je suis pas tendance à penser en tant que femme, je fais ce que je veux de mon corps, donc je le vends ou je le vends pas.
Ah, c'est ce que vous dites aujourd'hui, Mme
Agazinski ? Justement, non. Ça, c'est le féminisme libéral. Le féminisme social, c'est tout simplement une conception sociale aussi de la justice, de la justice sociale, je dirais, qui est que les lois sont faites pour éviter les injustices et pour éviter, et ça c'est crucial de mon point de vue, pour éviter que les personnes soient traitées comme des choses. C'est-à-dire que leur corps soit traité comme une chose. Or, acheter un morceau du corps, que ce soit des cellules, des organes, ou acheter une grossesse, un accouchement et par conséquent un enfant, c'est traiter des personnes comme des choses. C'est littéralement renverser un des piliers du droit depuis les Romains, les Grecs jusqu'à nous.
C'est comme ça que vous voyez le progrès social dont parle Madame Musin aujourd'hui
Je pense que les mesures qu'on prend actuellement, tout ça est assez grotesque. Il n'est pas beaucoup question de bioéthique là-dedans. J'en prendrai qu'un exemple. Le président du Comité consultatif national d'éthique a cru bon de dire à chacun son éthique, chacun sa morale, chacun son éthique. Nous, on essaye de satisfaire la demande sociale. Mais c'est pas ça. L'éthique, c'est au contraire, c'est pas seulement les intérêts particuliers ou
j'entends
la vision
bien, Sylviane Agazinski,
morale
ça veut
de chacun.
Dire, si je vous entends bien, que toutes les femmes ne peuvent pas choisir si oui ou non elles veulent avoir un enfant, quand et avec qui aujourd'hui.
Alors écoutez, c'est pas tellement ça la question. La question, il faudrait la faire remonter. Pourquoi y a-t-il demande d'enfants et je ne sais pas combien de temps il me reste.
Mais, peu malheureusement.
D'où vient la demande d'enfants?
les femmes dont nous parlons ne sont pas stériles, n'ont pas de problème de santé, elles peuvent faire des enfants. C'est leur liberté. Oui. La demande d'enfants aujourd'hui, elle provient d'un paysage mondial. Qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui ? Vous avez un marché généralisé de la procréation, y compris des organes aussi, mais ça c'est plutôt souterrain. Et on vous dit dans le monde, en Ukraine, en Californie, partout, vous pouvez acheter des cellules, vous pouvez acheter des ventres, vous pouvez acheter des femmes, vous pouvez acheter des enfants. À partir de là, et ça c'est Marx qui l'a dit très bien, très très bien, l'offre crée la demande et tout à coup on assiste à une demande d'enfants.
D'égalité.
Non, pas, on assiste à une demande d'enfants qui s'appuie sur des technologies, qui est nourrie par le marché et dont on voudrait que la sécurité sociale satisfasse les mêmes prestations que le marché mondial des cellules. On nous parle d'égalité, il ne s'agit pas du tout d'égalité. La médecine aujourd'hui, elle traite à égalité, elle traite en tant que médecine, c'est sa mission, c'est ça la question aussi.
Il n'est pas question d'égalité.
La mission de la médecine, c'est de soigner des gens, c'est de prendre en charge avec la solidarité assurance maladie les problèmes pathologiques. À partir du moment où vous sortez de la logique de la pathologie, vous entrez dans une logique de fabrication et c'est exactement pour ça que la réforme est faite. Et sur le modèle, ça j'y insiste beaucoup, je prends encore une minute là-dessus, sur le modèle exactement de la Californie, c'est-à-dire une révolution dans la filiation, on construit la filiation sur la parenté intentionnelle. On prend des parents intentionnels, ça s'appelle des clients aux États-Unis. Et les clients deviennent des parents. Et on voudrait faire ça aussi en transposant dans notre droit.
Voilà ce que vous rejetez, évidemment, Sylviane Agazinski. Pas question d'égalité, c'est ce que vous nous dites aussi ce soir sur cette loi de bioéthique au Sénat. Merci beaucoup d'être venu, en tout cas, vous exprimer au micro d'Europe 1. Merci à vous.
Dans un instant, le rappel des titres, le débat des grandes voix, votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy. C'est jusqu'à 20h. 18h34 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Avec votre rappel des titres, Isabelle Millet.
Et l'inquiétude mondiale autour du coronavirus, la Mongolie ferme sa frontière avec la Chine, l'Allemagne déconseille tout voyage dans ce pays, tandis que plusieurs pays, dont la France, préparent l'évacuation de leurs ressortissants. Toujours 3 cas confirmés chez nous, 2 à Paris, 1 à Bordeaux. Des patients dont l'état est stabilisé. Le directeur général de la Santé vient à l'instant de tenir une conférence de presse avec des nouvelles rassurantes. Édouard Philippe à Auschwitz, en Pologne, entouré de lycéens français à l'occasion du 75e anniversaire de la libération du camp nazi. Emmanuel Macron est élu au mémorial de la Shoah à Paris. La République doit être un rempart face à la résurgence de l'antisémitisme, a redit le président. 3e demande de remise en liberté rejetée pour Patrick Balkany. Son avocat se dit très inquiet au vu de son état de santé qui se serait dégradé. Mon mari est en danger mortel, dit Isabelle Balkany. Et puis l'annonce de la sélection du guide Michelin et ses étoiles qui brillent ou qui se ternissent d'une année sur l'autre. Ça y est, on a les toutes premières infos et notamment le chef Kobayashi, premier japonais à recevoir 3 étoiles en France. Son restaurant est situé à Paris dans le 1er arrondissement.
On a l'adresse, merci beaucoup Isabelle, à tout à l'heure, 19h. Anissa, beaucoup de pluie demain.
Oui, effectivement, il y a une perturbation qui est en train de traverser notre pays, qui nous apporte déjà beaucoup de pluie aujourd'hui. Et bien demain, c'est le ciel de traîne, l'arrière de cette perturbation, qui là aussi va vous apporter beaucoup de pluie. Alors sachez que demain, les seules parties de la France qui seront au sec sont le Languedoc-Roussillon, la vallée du Rhône, la Provence et la Côte d'Azur. Plus d'éclaircies dans l'après-midi, quelques brouillards matinaux dans ces régions. Sur les Vosges, le Jura, les Alpes, il pleut et il neige même à basse altitude à partir de 400 mètres. Et sur tout le reste du pays, et ben c'est un ciel de traîne, je vous le disais, avec quelques toutes petites éclaircies vraiment timides. Mais c'est un temps très gris et très pluvieux pour demain. Attention, les pluies pourront prendre un caractère orageux en Bretagne et sur le Cotentin. Les températures, elles sont douces. 2 à 10 degrés de Belfort à Bordeaux demain matin, 5 à Paris, 8 à Nice. Dans l'après-midi, nous aurons 8 à 18 degrés de Paris à Bastia.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h. Vous êtes entouré ce soir de Charles Villeneuve, de Gérard Carrérou et de Roselyne Fèvre, chef du service politique de France 24.
Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir. Bonsoir.
Bienvenue dans ce studio pour évidemment évoquer dans un petit instant ces commémorations, le 75e anniversaire des événements de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. Mais d'abord, j'aimerais vous entendre sur cette rupture consommée. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça, cette rupture consommée entre Cédric Villani et Emmanuel Macron?
Oui, on peut le dire.
Charles, je vous sens là sur ce...
Oui.
C'est quoi? C'est une fin de non-recevoir que Cédric Villani lui a servi sur un plateau hier?
Absolument. Moi, je trouve que c'est une sorte de camouflet qui montre que le pouvoir n'a aucun fil. C'est-à-dire qu'habituellement... on fait passer le récalcitrant, si vous voulez, dans une sorte de salle de décompression avec un conseiller qui essaie de le convaincre, de le ramener à la raison, etc. Vous savez qu'on lui a même envoyé un envoyé spécial, le Bayrou, qui pendant 10 jours a essayé de le ramener à la raison.
Voilà, ouais.
Le président de la République et même, si vous voulez, l'état-major politique qui a essayé aussi plus ou moins de le convaincre, considérait qu'au fond, au départ, c'était pas mal parce que Villani parlant au centre-gauche et puis Griveaux parlant au centre-droit, puis on pouvait additionner les deux. Ben, tout ça est raté.
Patatras, comme on dit.
Finalement, Cédric Villani, Cédric La Science, eh ben, il a refusé de se rendre à la raison.
Et il a refusé de se rendre à la raison. Et les conséquences, quand même, elles ne sont pas négligeables, Gérard Carrérou, au grand dam du parti présidentiel, évidemment, mais avec tout ce que ça engendre en termes d'image. Parce qu'il va se faire tirer les bretelles, on essaie de le ramener dans le giron. Eh ben non, il résiste, il est le rebelle. Et tout cela au su et au vu de tous.
Oui, c'est une mauvaise affaire, incontestablement, pour le parti présidentiel, qui est déjà, disons, il n'est pas ancré dans le pays, donc il est déjà en difficulté pour son ancrage dans un certain nombre de villes, on le voit, où les scores des sondages, oui. Les sondages lui donnent des scores très faibles, parfois autour de 7, 8, 10%, 12%, c'est-à-dire largement en dessous de l'étiage du président de la République au premier tour de la présidentielle. Donc déjà, il y avait une difficulté. Et là, il y a quelque chose qui est très mauvais pour l'image même du président de la République. Car, effectivement, dans la Ve République que nous avons vécue depuis assez longtemps déjà, depuis quelques décennies, quand il y avait un problème, il y a eu des problèmes de ce genre où il fallait trancher. Mais en général, le coup était préparé et négocié d'avance. C'est-à-dire que le stade ultime qui était celui qui voulait se maintenir était reçu par le président, les jeux étaient faits. On savait qu'il allait dire à la sortie, eh bien oui, finalement, j'ai beaucoup réfléchi, et le président de la République, fort intelligent, m'a convaincu, etc. Et donc, je me retire. Or, là,
on lui donnait Gérard,
ou on lui donnait une place
de ministre.
Oui. Mais c'était négocié. On lui donnait
ça se faisait en quelque sorte en catimini, enfin, ça se réglait.
Voilà, on lui donnait un lot de consolation, je ne sais quoi, une ambassade, un poste, et éventuellement la promesse d'un poste.
L'ambassade
poste ministériel, un poste ministériel. Bon, en tout cas, c'était géré. Mais là, ce qui est une faiblesse et qui porte une atteinte au président de la République, c'est qu'on a l'impression que le président n'est même pas capable d'imposer à un de ses soutiens. C'est quand même un de ses soutiens, j'allais dire. Un de ses soutiens.
Oui, c'est lui qui l'a fait député.
Il en a fait un député et il n'est même pas capable de lui imposer de se retirer dans une élection qui est quand même très importante parce qu'on sait bien que des municipales, on va retenir quoi? Le score à Paris, le score dans quelques grandes villes.
Marseille,
et donc, s'il y a
une
défaite cuisante de la République En Marche à Paris, eh bien, on pourra dire que le président de la République a mal joué son jeu.
Roselyne Feff, c'est cadeau ça? C'est cadeau pour les adversaires politiques d'Emmanuel Macron et
oui,
pour
parce on le voit aujourd'hui dans les sondages. En fait, puisque Rachida Dati est
le sondage du week-end, dans deuxième
mais
position.
Ce que je voudrais ajouter, c'est que cette affaire est mal embouchée depuis le début. En fait, c'est ça le sujet. Il fallait soit il excluait Villani dès le début, mais est-ce que dans le fond on pouvait éjecter de
cas,
la République
hein,
en
oui
non mais
c'est
dit dès le début,
c'est pour ce soir.
Est-ce que Emmanuel Macron pouvait dans le fond faire ce que lui a fait, c'est-à-dire aller à la conquête comme ça en désobéissant, en franchissant le Rubicon, bref en étant le terme à la mode, disruptif, et aller à la présidentielle. L'erreur, c'est d'avoir attendu. Et l'Élysée s'est dit, il y en a bien un qui va bouffer l'autre. En fait, c'était ça le calcul.
Oui.
C'était de dire, à la fin, on fera les comptes et soit on sera du côté de Griveaux, soit du côté de Villani. Mais en fait, ce n'est pas ça du tout. Bah, on s'est rendu compte que 1 plus 1, normalement, devait faire 1. Et là, c'est 1 plus 1 égale 0.
Exactement.
Puisqu'effectivement, celle qui prend la place,
c'est Rachida
Dati.
C'est 1 moins 1, là.
Voilà. Et donc, ce que je voudrais juste dire, pour rebondir sur ce que disait Gérard, c'est qu'effectivement, cette médiation, peut-être qu'Emmanuel Macron aurait dû la faire en sourdine, en tout cas,
Mesdames,
et pas du tout, effectivement. en faire
oui.
un
élément. Parce qu'il a l'air de vouloir quelque chose et l'autre lui fait un pied de nez.
Oui. Exactement. Oui. Alors on s'en reparle dans un instant parce que comment ça peut se terminer tout ça? Bah, on va voir parce que Benjamin Griveaux, il n'a pas de quoi faire le fier. On se le dit dans un instant.
Et vous pouvez vous aussi participer au débat des grandes voix. N'hésitez pas à réagir, à venir poser vos questions en direct au 3921 ou sur Twitter avec le hashtag Europe 1, votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy jusqu'à 20h. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix. Et avec vous ce soir, Nathalie Lévy, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Roselyne Fèvre, chef du service politique de France 24.
Voilà, on se reparle évidemment de ces municipales à Paris. On s'en approche à grands pas et on voit bien qu'à cette semaine des municipales, c'est compliqué pour le candidat, La République En Marche, Benjamin Griveaux. Toutes ces discussions à l'Élysée, notamment ce week-end, c'est un cadeau aux adversaires politiques. On parlait de Rachida Dati, 20%, 3 points seulement derrière Anne Hidalgo ce week-end dans le dernier sondage. Et puis cadeau aussi, et ce sera d'ailleurs l'invité de Aurélie Herbemont, le candidat Europe Écologie Les Verts à la mairie de Paris, David Béliard. C'est cadeau aussi pour Les Verts.
Il y a deux candidats maintenant. Il y a deux candidats qui aujourd'hui vont mener le jeu de la campagne.
Deux candidates.
Deux candidats, dont une candidate. Au sens générique du terme. Deux candidats, dont une candidate, si vous préférez. Une candidate et un candidat. Parce que Paris, effectivement, depuis Étienne Marcel, c'est pour ça qu'on ne voulait pas qu'il y ait de maire de Paris élu au suffrage universel. Paris est une ville qui se rebiffe, se rebelle.
Sauf en 1789.
Oui, mais la plupart du temps, elle était rebelle. Donc on ne voulait pas qu'elle ait un maire. Maintenant, elle a un maire et elle ne voudra pas véritablement, surtout qu'il n'est pas formidablement charismatique, elle ne voudra pas du candidat officiel. Donc, elle l'a rejeté déjà dans les sondages, le candidat officiel. Et en plus, le candidat officiel, il y en avait deux. Donc, du coup, c'est râpé de ce côté-là. Mais il reste.
Donc, vous êtes plié.
Ça a permis. Non, c'est pas plié, mais je dis c'est râpé pour que le candidat sorte avec un très gros score. Mais il y en a deux qui ont, eux, du coup, profitent de leur chance. C'est Rachida Dati. On ne donnait pas tripette sur les Républicains. Elle est maintenant à 20%. Et quant au candidat Béliard, lui, il est en train d'imaginer un schéma où il pourrait récupérer à la fois. Outre l'électorat écologique, une partie de l'électorat de Villani et une partie de l'électorat de gauche. Et donc, on a ces deux personnes-là qui vont jouer un jeu.
Mais il y a quand même une donnée politique classique qui est inscrite dans l'histoire, en quelque sorte. Rappelons-nous 77, quand l'envoyé spécial du pouvoir, Michel Dordano, se présente contre le dissident, en quelque sorte Jacques Chirac, qui a démissionné de son poste de Premier ministre. De la même manière, d'ailleurs, aussi de la Noé, quand il se présente contre le système, souvent, par exemple, Griveaux, qui exhibe pas mal de ministres, je trouve que c'est une contre-performance sur ce plan-là. Oui, parce qu'on vote contre le pouvoir central, au municipal. C'est pas toujours vrai aux européennes, ça l'a pas été. Ouais. Et puis au présidentiel aussi, et aux législatives. C'est pas la même chose, c'est pas la même élection.
C'est pas la même élection. Roselyne, contre Jacques Lang, à une époque.
Roselyne, c'est compliqué pour Griveaux, d'autant qu'il a quand même un certain nombre, j'allais dire, de casseroles, passez-moi l'expression, parce qu'il est mal aimé, il a une mauvaise réputation à Paris.
Oui, il n'attire pas tellement la lumière.
On l'a souvent taxé d'arrogance.
C'est vrai, c'est vrai.
Comment se refaire en cette semaine?
Ça va être compliqué. On dit toujours que quand on part divisé, c'est une machine à perdre. Donc vous posiez la question tout à l'heure, c'est cadeau pour qui? C'est cadeau, pas compliqué, pour Anne Hidalgo, qui était quand même sous le feu des critiques. Elle était vraiment dans le creux de la vague il y a un an, si bien que certains se disaient, mais elle ne sera jamais réélue entre les travaux, la saleté, les rats. Tout le monde en
les
avait
bouchons.
Ras-le-bol. Alors évidemment,
la grève l'a servi.
La grève l'a servi
sur le
absolument.
Plan des transports, notamment.
Absolument. Et à part quelques bobos à vélo qui adoraient ça, et tant mieux. Ils ont peut-être raison. Ces bobos à vélo.
Vous savez que c'est d'ailleurs Anne Hidalgo qui me l'a dit. Moi, j'ai dit, écoutez, j'ai un peu mal au dos, etc. Elle me dit, mais il y a des vélos électriques.
Qu'elle développe tout ça. Moi, je suis tout à fait.
Non, mais la grande victoire, c'est
en tout cas, elle était vraiment sous le feu des critiques.
Avec Gérard, on viendra au grand bois.
Mais la grande victoire aujourd'hui, effectivement, j'ai parlé des deux autres parce que c'est les outsiders, mais bien évidemment, la favorite, c'est Hidalgo.
Alors juste un mot pour boucler la boucle, c'est mercredi soir, pour être exact, donc que le bureau exécutif de La République En Marche actera le fait que Cédric Villani n'est donc plus adhérent de La République En Marche. Voilà pour boucler la boucle sur ce dossier. Je voudrais qu'on se garde du temps dans une seconde pour revenir sur les commémorations autour de la Shoah, la prise de parole d'Emmanuel Macron aussi sur la comparaison Shoah-guerre d'Algérie. Ça ne vous a pas échappé.
échappé.
Non.
C'était ce week-end. Enfin, c'était dans le retour de l'avion présidentiel Jérusalem-Paris.
Vous écoutez Le Monde Changé, c'est votre grand journal du soir, tous les jours jusqu'à 20h avec Nathalie Lévy. Suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix. Ce soir autour de vous, Nathalie Lévy, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Roselyne Fèvre, chef du service politique de France 24.
On a beaucoup parlé du devoir de mémoire et plus encore en ce 75e anniversaire de la libération du camp nazi d'Auschwitz. Mais je voudrais vous entendre aussi ce soir sur cette petite phrase qui au départ est passée inaperçue. C'était dans l'avion qui ramenait Emmanuel Macron de Jérusalem vers Paris. Il a dit ceci, hein, pour faire simple, je suis très lucide sur les défis que j'ai devant moi d'un point de vue mémoriel et qui sont politiques. La guerre d'Algérie est sans doute le plus dramatique, je le sais, depuis ma campagne. Elle est à peu près le même statut que la Shoah pour Jacques Chirac en 1995.
Oui, c'est alors trop intelligent.
J'ai fait un résumé, hein, non, vous l'aurez compris.
C'est ce que vous avez dit, ça, effectivement. Oui, voilà, mais c'est trop intelligent parce que. Oui, ce que je veux dire par là, c'est trop intellectuel. Le simple fait, dans un entretien, effectivement, dans l'avion en plus, pas un entretien face caméra, etc., de mettre les deux mots. Oui. Guerre d'Algérie d'un côté, Shoah de l'autre, ça a créé effectivement une émotion et surtout un désaveu de la plupart de ceux qui... On ne peut pas comparer, moi je pense qu'on ne peut pas, en aucune manière, comparer la Shoah, qui est un drame dont j'espère qu'il ne reviendra jamais, même s'il y a des, comme il l'a dit dans son discours, il y a l'antisémitisme qui rôde, etc., en Europe et tout. Mais quand même, un événement paroxystique avec la volonté de détruire jusqu'au dernier des hommes considérés comme des espèces d'extra-humains, et une guerre d'Algérie qui était un des aspects d'une décolonisation qui a été effectivement une guerre difficile.
Horrible, même sanglante, horrible, hein, il ne s'agit pas de
minimiser. Où il y a eu des exactions de part et d'autre, de part et d'autre, du FLN et parfois de l'armée française avec la torture. Tout ça, on ne peut pas rapprocher. Alors l'idée, Macron, quand je dis qu'il est trop intelligent, c'est quand il dit « oui, j'ai eu un défi mémoriel », un peu comme Chirac avait eu un défi mémoriel avec Pétain, le Veldiv. Et moi, j'ai ce défi avec le Paul. Et ça,
c'est lui qui crée la confusion.
C'est lui qui crée la confusion.
Il crée la confusion parce que d'abord, il compare ce qui est incomparable, un véritable crime contre l'humanité, et une décolonisation dont il dit que c'est un crime. Il le dit durant sa campagne présidentielle, notamment en Algérie. Et il revient par trois fois là-dessus. D'ailleurs, il dit qu'il ne regrette rien de cette expression. Il l'a confiée. Et donc, partant de là, cette confusion qu'il entretient, d'ailleurs, dans l'avion, il faut bien se dire une chose, c'est que ça ne porte pas chance aux hommes politiques, l'avion.
Oui, parce que c'est des confidences à chaque fois qu'il peut.
Rappelons-nous Lionel Jospin sur l'âge du capitaine, en l'occurrence Jacques Chirac, qui va lui coûter sans doute une partie de son élection, enfin de sa candidature à l'élection présidentielle. Donc, c'est lui le principal responsable de cette affaire. Et il l'a dit d'ailleurs au début, quand il a été élu, quand on est chef de l'État, il vaut mieux garder une certaine distance et pas trop bavasser. C'était, je trouve, une sage intention qu'il... manifestement, il est en train de délaisser.
Et c'est compliqué, Roselyne Fèvre, parce qu'il parle beaucoup, et Gérard le dit, c'est peut-être trop intelligent, mais en même temps, est-ce que on n'est pas...
Raison.
Oui, mais est-ce qu'effectivement, il ne ridiculise pas son propre discours la veille au Forum mondial de la Shoah, quelques heures plus tôt. C'est une autodestruction.
Je pense qu'il est maladroit. Une fois de plus, effectivement, on ne comprend pas ce qu'il veut dire. Et Gérard l'a rappelé, c'est vrai qu'il ne me remet pas en cause la singularité de la Shoah, ni son unicité. Ça, je veux dire, personne ne peut l'imaginer. Bien évidemment, ce qu'il veut dire, c'est qu'il compare le défi mémoriel, le sien, effectivement, qui est la guerre d'Algérie, puisqu'il a fait plusieurs incursions sur le sujet, je vous rappelle, notamment quand il était en campagne électorale pour la présidentielle. Et puis surtout, il a reconnu le mathématicien Maurice Audin, qui est pro-indépendant, qui était mort sous la torture. Du fait du système institué alors en Algérie par la France. Donc, c'est ça qui veut dire en réalité. Mais on ne le comprend pas. D'abord parce qu'il utilise le mot Shoah. Peut-être qu'il aurait dû parler de Veldiv.
Oui.
D'abord parce que Shoah,
la rafle,
quand on sait qu'un jeune sur cinq, c'est pas ce que ça veut dire.
Sur six,
ce qui est pire.
Mais quand même, est-ce qu'à force comme ça de faire cavalier seul, enfin pardonnez-moi, de se distinguer, de jouer quand même parfois même contre son camp, il enchaîne pas comme ça.
De dire, C'est louable de dire qu'il a un défi mémoriel.
Oui.
Mais bon, après, c'est les sables mouvants de la repentance. Où on met les pieds, est-ce qu'on s'enfonce, etc. Double chose, comme
vous
le disiez.
Vous êtes bien d'accord que c'est lui qui entretient la confusion.
Bah, je pose la question.
À partir
et je
du moment où vous dites
chose,
qu'il
oui.
est maladroit, c'est lui qui entretient
il est malade,
la confusion. Voilà,
mais on ne peut pas le taxer de dire qu'il mélange la Shoah et qu'il le met sur un même pied. C'est faux et archi faux de le dire. On ne peut pas dire une chose pareille.
Mais
on vous laisse
là où
on est malhonnête. En revanche, là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il y a une malédiction des prises de parole dans l'avion. Parce qu'on se pense détaché, on est fatigué, on se pense détaché des mauvais climats.
Et puis le bruit des réacteurs défend les moyens.
Où il parle du nouvel antisémitisme qui est celui venant de l'islamisme radical et qu'il s'apprête en plus à stigmatiser bientôt, on ne peut pas à ce moment-là donner un gage pour la guerre d'Algérie.
Je suis d'accord, mais on ne peut pas
dire qu'il mélange. Et c'est ça qu'il fait une erreur.
Qui dit qu'il met sur le même pied.
Merci les grandes voix. Vous continuez là, de l'autre côté, en off, comme on dit.
Oui,
n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci à vous.
À suivre dans votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
L'actualité avec le coronavirus et la conférence de presse à suivre du directeur général de la Santé. C'est dans le journal d'Isabelle Mille.
Et votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours jusqu'à 20h. Jusqu'à 20h, vous écoutez votre grand journal du soir sur Europe 1. Par la suite du programme, Nathalie Lévy.
En quelques mots, les politiques, et ça s'agite, la course des municipales, avec Aurélie Herbemont qui reçoit David Belliard, candidat Europe Écologie Les Verts à la mairie de Paris à 19h10. Demain en France et demain dans le monde, c'est à 19h20. Et puis ce soir, on regarde nos pieds, les baskets, vous en avez ? Ben, c'est sûr, parce que ça cartonne et parce que c'est un marché colossal, on s'en parle.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Isabelle Millet et Nathalie Lévy. Belle fin de journée, il est 19h.
L'objectif, c'est que nous puissions les rapatrier sur les territoires nationaux où ils bénéficieront d'un suivi personnalisé pour éviter toute propagation du virus.
Et la France prépare donc activement le rapatriement de ses ressortissants à Wuhan. Ils seront placés en quarantaine dès leur retour, tandis que l'on a ce soir des nouvelles rassurantes des 3 patients français contaminés par le coronavirus.
Le groupe terroriste État islamique menace de s'en prendre à Israël. Il cible directement les Juifs.
L'émotion de Jean-Claude Gaudin. Ce matin, le maire de Marseille a présidé son tout dernier conseil municipal.
Et puis 1, 2 ou 3 étoiles, fébrilité chez les chefs à l'heure de la sortie du guide Michelin.
Et on vient tout juste de l'apprendre, il y aura 3 nouveaux 3 étoiles, dont un chef japonais. C'est une première.
Anissa, le temps demain.
Alors demain, c'est gris, avec de la pluie, du vent, de la neige presque partout.
Tout, oui.
À bonne nouvelle, les températures, elles sont en hausse. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Isabelle Millet.
Et le ministère de la Santé avait promis vendredi dernier de communiquer quotidiennement sur le coronavirus après l'apparition des 3 premiers cas en France. Eh bien, chose promise, chose due.
Et des nouvelles plutôt rassurantes, des 3 patients hospitalisés, 2 à Paris pour être exact, 1 à Bordeaux.
Effectivement, leur état est stable. Par ailleurs, pas de nouveaux cas confirmés pour l'instant. C'est le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, qui a tenu une conférence de presse tout à l'heure pour donner les dernières nouvelles. Et il a aussi évoqué, bien sûr, le rapatriement des Français vivant à Wuhan, le berceau du virus.
Nous organisons en ce moment même, évidemment avec plusieurs ministères, dont nos représentations diplomatiques et le consulat à Wuhan, la vérification des personnes qui souhaitent rentrer, puisque certains de nos concitoyens ont toute leur vie à Wuhan, en Chine, et ne souhaitent pas forcément rentrer. Donc nous aurons dans les prochaines heures la liste définitive des personnes qui souhaitent rentrer. Et ensuite, ce sera un vol direct, un vol dédié, qui fera Wuhan France, avec une équipe médicale à bord, puisque l'objectif, c'est que nous puissions répondre aux inquiétudes, répondre aux éventuels symptômes cliniques, prendre en charge correctement nos concitoyens pour les rapatrier sur les territoires nationaux, où ils bénéficieront ensuite d'un suivi personnalisé, bi-quotidien, médical, pendant 14 jours, pour éviter toute propagation du virus.
Le directeur général de la Santé, là, il y a quelques instants, Jérôme Salomon, au micro d'Europe 1, de Victor Dolande. Alors la Chine, elle se barricade, tandis que l'OMS, l'Organisation mondiale de la Santé, corrige son évaluation de la menace. Elle la qualifie désormais d'élevée à l'international et non plus de modérée. La ville de Pékin, par ailleurs, fait état, Isabelle, de son premier décès.
De Paris à Auschwitz, Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont rendu hommage aujourd'hui aux victimes du nazisme.
5 jours après son déplacement en Israël, le président de la République a de nouveau mis en garde contre l'insupportable regain de l'antisémitisme en Europe. L'antisémitisme, a-t-il insisté, ce n'est pas le problème des Juifs, c'est notre problème à tous, celui de la République.
Il était qu'Emmanuel Macron est rappelé à l'ordre par plusieurs hauts magistrats qui rappellent l'indépendance de la justice. La première présidente de la Cour de cassation et le procureur général n'ont pas apprécié visiblement les déclarations du chef de l'État concernant le meurtre de Sarah Halimi, cette sexagénaire juive tuée en 2017. Emmanuel Macron avait évoqué depuis Jérusalem un besoin de procès alors que la justice a déclaré pénalement irresponsable ce meurtrier présumé.
Et dans ce contexte, ce messages inquiétants ce soir du porte-parole de l'État islamique, le premier depuis la mort d'Abou Bakr al-Baghdadi.
Gwendoline de Bonneau, il s'agit d'un message audio qui appelle très clairement à cibler Israël.
Oui, ce n'est pas le successeur de Baghdadi dont l'identité est toujours gardée secrète, mais le nouveau porte-parole du groupe État islamique qui s'exprime. Le message explique la nouvelle stratégie, combattre les juifs, je cite, et rendre ce qu'ils ont volé aux musulmans. Alors il ne s'agit pas cette fois d'un slogan djihadiste un peu usé. Le nouveau chef de l'État islamique semble déterminé à planifier des opérations en Israël. Les soldats du califat ont toujours les yeux rivés vers Jérusalem. Voilà ce qui est dit dans l'enregistrement, avec une allusion à une attaque à venir. Dans les prochains jours, si Dieu le veut, vous verrez. Voilà ce que l'on peut entendre. Les combattants de l'État islamique en Syrie et au Sinaï sont invités à transformer les colonies israéliennes en terrain d'essai pour tester des roquettes chimiques. Alors, les djihadistes ont déjà utilisé cet armement, pour l'instant très rudimentaire, notamment pendant la bataille de Mossoul en Irak, mais jamais à Gaza ou dans le Sinaï égyptien. La date de diffusion de ce message menaçant est soigneusement choisie. En effet, Donald Trump, le président américain, doit annoncer demain son plan pour une résolution du conflit israélo-palestinien. Un plan fustigé par le groupe État islamique qui appelle les musulmans de Palestine à devenir, je cite, « l'ogive de la lutte contre les juifs ».
Les précisions pour Europe 1 de Gwendoline de Bonneau.
Il est 18h04 sur Europe 1, la suite du journal Nathalie Lévy, Isabelle Mille.
Et le chômage en baisse l'an dernier, moins 3,3% sur l'année si l'on prend en compte la catégorie A, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas du tout travaillé, moins 2,9% pour toutes catégories confondues. C'est un chiffre que l'on n'avait pas atteint, en tout cas depuis la crise de 2008.
Il avait déjà versé une larme lors de ses voeux il y a quelques jours. Jean-Claude Gaudin a présidé ce matin son tout dernier conseil municipal.
Et cette fois, c'est vraiment une page qui s'est tournée pour celui qui occupe ce poste de maire de Marseille depuis 25 ans. Jean-Claude Gaudin, qui a reçu un hommage unanime, hommage Nathalie Chevant, ce qui l'a beaucoup ému.
Oui, et la voix tonitruante du maire s'est mise à chanceler devant cet ultime conseil municipal, toujours bouillonnant, véritable foire d'empoigne entre élus de la majorité et de l'opposition, sous l'œil jubilatoire d'un Jean-Claude Gaudin qui dit maintenant vouloir s'effacer, non sans une dernière déclaration d'amour pour sa ville.
Elle m'anime cette passion depuis toujours. Il n'est pas de mission plus noble que celle de servir sa ville. Marseille, la plus belle des villes. Nul ne peut arrêter l'horloge du temps. Elle sonne aujourd'hui pour moi l'heure du retrait. Je souhaite bonne chance à Marseille.
Spontanément, tous les élus se lèvent, applaudissent. Hommage républicain à l'un des derniers monuments de la vie politique française, salué par la gauche et même par le candidat RN à la mairie, Stéphane Ravier.
J'ai été le témoin privilégié de l'action d'un monstre. D'un monstre de drôlerie et de remarques acerbes, de bonhomie et d'amour pour sa ville. Un monstre politique qui a quand même dévoré ses enfants les uns après les autres, espérant sans doute la vie éternelle. Vous serez éternel, monsieur le maire.
Et Jean-Claude Gaudin a remercié les Marseillais, mais n'a pas croisé ceux qui ont manifesté encore une fois devant sa mairie pour dénoncer l'insalubrité de certains immeubles.
Nathalie Chevance, correspondante d'Europe 1 à Marseille. La demande de remise en liberté de Patrick Balkany rejetée pour la troisième fois. Le maire de Levallois reste donc en prison jusqu'à son nouveau procès qui débutera lundi. Les municipales, ce soir, Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, annonce officiellement sa candidature à Tourcoing, ville dont il a déjà été le maire. Il l'annonce à nos confrères de La Voix du Nord.
Et puis à Paris, la rupture qu'on s'aimait, en refusant de se rapprocher de Benjamin Griveaux, comme le lui demandait Emmanuel Macron. Cédric Villani a acté le divorce avec son parti. Exclusion d'ailleurs mercredi. On y revient dans un instant avec David Belliard, invité d'Aurélie Herbemont pour Europe Écologie Les Verts.
L'étoile Kobe Bryant s'est éteinte. L'émotion est mondiale. À 41 ans, la star du basket, victime d'un accident d'hélicoptère, un crash qui a fait 9 victimes, parmi lesquelles l'une de ses filles, Gianna. Elle avait 13 ans.
Ouais, d'autres étoiles à présent, celles que les restaurateurs rêvent d'accrocher à l'entrée de leur cuisine, les étoiles du guide Michelin, bien sûr.
Décerné officiellement en ce moment même. Alors, on savait déjà que le restaurant de Paul Bocuse, près de Lyon, en avait perdu une. Mais Pierre Herbulot, vous êtes en direct. Pierre, comme à chaque fois, il y a aussi des belles surprises et le palmarès vient à l'instant d'être dévoilé.
Oui, Amand, et on va entrer directement dans le vif du sujet. La France compte 3 nouveaux restaurants, 3 étoiles ce soir. Primé dans cette édition 2020, un restaurant de ville, celui du japonais Kai Kobayashi. C'est le premier japonais à décrocher 3 étoiles en France. Un restaurant de la terre, celui de Glen Vielle au Beau-de-Provence. Et enfin, un restaurant de la mer, celui de Christopher Coutançois à La Rochelle. J'ai eu la chance de goûter l'un de ses plats il y a quelques mois, un carpaccio de bonite fumée avocat wasabi. Je peux vous dire que c'est exceptionnel. 10 nouveaux restaurants, 2 étoiles également dans cette sélection. On peut citer le Taïwan, un établissement mythique qui reprend des couleurs, la scène de Stéphanie Lequelec à Paris, ouvert il y a 3 mois seulement, ou encore l'atelier étoile de Joël Robuchon. Là, je peux vous dire que c'est la fameuse purée du chef qui a encore de beaux jours devant elle. Enfin, en plus des étoiles classiques, 49 nouveaux promus cette année, le Michelin crée une nouvelle distinction, un genre d'étoile verte ou de trèfle, on n'a pas eu le nom, un titre qui distingue les chefs mettant en avant le développement durable. 50 tables sont récompensées, et là je vais vous en citer une, celle de Christophe Haribert à Uriage-les-Bains vers Grenoble, qui fait des assiettes de légumes à tomber par terre.
Pierre Herbule, au reporter et fin gastronome, bon, en direct de la chance, hein. Du pavillon Gabriel, il y en a qui ont la belle vie.
Merci Isabelle Millet, vous vous revenez à 19h30 avec de nouvelles infos. Et Anissa, du côté du temps, beaucoup de vent demain.
Oui, attention, hein, le vent de sud-sud-ouest souffle fort encore demain. Il a soufflé aujourd'hui sur quasiment toute la France. Demain, il continue avec des rafales jusqu'à 90 km/h sur une grande partie du pays. Attention, sur les côtes atlantiques, le vent va souffler à plus de 110 km/h demain. C'est au sud-est, sur le Languedoc-Roussillon, la côte d'Azur. C'est là que le temps va rester sec demain, avec même de belles éclaircies dans l'après-midi. En Corse, nous aurons de la pluie sur les reliefs et le temps redevient sec dans l'après-midi. Partout ailleurs, il pleut. Voilà, c'est assez simple à résumer la journée de demain. Il pleut partout, des pluies qui localement sur le Cotentin et la Bretagne par exemple pourront prendre un caractère orageux. Et sur tous les reliefs, demain, Massif central, Alpes, Jura, Vosges, Pyrénées, Morvan, et bien partout il va neiger, parfois même à basse altitude. Dans l'Est, on attend de la neige à partir de 400 mètres. Les températures, attention aux avalanches aussi hein, dans les Alpes du Nord. Les températures, elles sont douces, 2 à 10 degrés demain matin, 3 à Metz, Nancy, Lille et Chambéry, 5 à Paris et Clermont-Ferrand. Au meilleur de la journée, nous aurons 6 à 18 degrés, 8 pour la capitale, 15 à Marseille, 14 à Narbonne et jusqu'à 16 degrés à Mandelieu-la-Napoule.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Avec l'interview politique dans un instant. Bonsoir Aurélie Herbemont.
Bonsoir Nathalie.
Votre invité ce soir,
David Béliard, candidat Europe Écologie Les Verts à la mairie de Paris. La coalition climat dont il rêve reprend-elle des couleurs après l'affront de Cédric Villani au chef de l'État? On en parle avec lui.
Et l'interview politique d'Aurélie Herbemont, c'est dans un instant dans votre grand journal du soir sur Europe 1. Votre grand journal du soir continue sur Europe 1 avec l'interview politique, Nathalie Lévy.
Et avec vous Aurélie Herbemont dans ce studio ce soir, votre invité David Béliard, candidat Europe Écologie Les Verts à la mairie de Paris.
Bonsoir David Béliard.
Bonsoir.
Cédric Villani va être exclu de La République En Marche puisqu'il refuse de se rapprocher de Benjamin Griveaux. Est-ce que ça constitue une rupture suffisante avec la Macronie pour que vous avanciez ensemble sur la coalition climat que vous rêvez de mettre en œuvre à Paris?
Ben moi je me félicite de ce pas. Sympa, courageux. Cédric Villani choisit le climat, choisit de transformer la ville, choisit la coalition climat que j'ai proposée au détriment d'une décision, en tout cas d'une volonté du président de la République qui mène une politique qui est une politique anti-climat. Maintenant, il faut encore continuer à clarifier, continuer à travailler.
Qu'est-ce qu'il doit clarifier ?
Et bien d'abord, son soutien au gouvernement. Il ne l'a pas annoncé clairement.
Ça doit être une rupture totale.
Mais oui, parce que le soutien, le gouvernement, ce gouvernement, il mène une politique qui est une politique anti-climat. Il mène une politique qui ne va pas dans le sens de ce que nous voulons pour Paris, de ce que nous voulons pour le pays. Il y a des décisions à prendre, des choix à faire. Et ce gouvernement ne fait pas ses choix sur la question de l'écologie. Donc il faut rompre et puis il faut travailler sur le projet pour Paris. Le projet, quelle histoire voulons-nous écrire pour Paris? Et moi, je veux écrire une histoire d'une ville qui est une ville avec plus de vert, plus de nature, moins de voitures, qui retrouve le goût de la proximité, le goût de la rencontre. C'est ça le Paris que nous proposons aujourd'hui. Et c'est celui-là qu'il faut que nous construisions au sein de cette coalition pour le climat.
Alors, faisons un petit point très concret pour nos auditeurs sur cette coalition climat. C'est une coalition que vous envisagez pour le second tour, chacun partant sous ses propres couleurs au premier tour. Alors, autre point plus concret qui appellera une réponse extrêmement claire. Est-ce que c'est une coalition climat qui peut inclure Anne Hidalgo, puisque vous imaginez que ça pourrait être des insoumis à Cédric Villani, ou c'est une offre résolument anti-Hidalgo?
Et moi, je suis anti-personne. Moi, mon adversaire dans cette élection, c'est le dérèglement climatique et l'injustice sociale. C'est ça l'adversaire que nous avons, nous, écologistes. Bien sûr que les socialistes, bien sûr que Anne Hidalgo fait partie de cette grande coalition pour le climat. Là aussi, il faut aussi un certain nombre de clarifications. De la clarification sur le projet. Qu'est-ce qu'on veut pour Paris? Je vais vous donner par exemple un exemple. un exemple. Par exemple, la question de la place des entreprises, des lobbies qui prolifèrent à Paris, notamment par exemple l'espace public. On a trop laissé Uber prospérer, Airbnb prospérer, les trottinettes électriques. Aujourd'hui, on est dans une situation de jungle à Paris. Paris est devenu une sorte de grand monopole pour des grandes entreprises. Il faut que nous changions de modèle. Il faut changer de modèle. Arrêter, par exemple, le sponsoring, comme on l'a vu par exemple sur les illuminations de Noël. Mmh. On ne peut pas dire qu'on fait une politique pour le climat, contre le dérèglement climatique d'un côté, et de l'autre, continuer à faire sponsoriser des illuminations de Noël par Ferrero et Nutella. Non, il faut de la cohérence, et moi je crois qu'il faut aujourd'hui faire des choix.
Si ça peut être avec Anne Hidalgo, ça veut dire que ce sera comme d'habitude, finalement, comme depuis 2001 à Paris. Au premier tour, socialistes et écologistes sont chacun de leur côté. Et puis après, c'est l'union. Finalement, ça sera comme d'habitude.
Mais on a une
d'habitude.
Urgence. Mais non, il faut ouvrir un nouveau cycle politique. On a une urgence climatique, on a une urgence sociale. Pour répondre à ça, il faut, je crois, embarquer les Parisiennes et les Parisiens très largement pour libérer, par exemple, le Paris de la voiture, pour changer la ville, pour en faire, par exemple, une ville avec plus de nature, pour redécouvrir, par exemple, j'ai proposé de faire recouler la Bièvre, cette rivière qui est en dessous de nos pieds et qu'on peut aujourd'hui redécouvrir. Eh bien, pour ça, il faut embarquer. Il faut faire avec les gens parce qu'il ne suffit pas d'avoir raison, il faut aussi convaincre. Eh bien, cette coalition pour le climat, elle est dans cette même logique. Moi, je veux travailler avec toutes celles et ceux qui sincèrement veulent transformer Paris, qui sincèrement, puisque tout le monde parle d'écologie, eh bien, faisons-le. Faisons cette ville écologiste que nous voulons faire et construire ensemble.
Alors, tout le monde parle d'écologie, vous le disiez d'ailleurs. Petite interrogation quand on voit vos sondages, David Belliard, à Paris. Vous êtes entre 14,5 selon les dernières enquêtes. Comment vous expliquez que vous ne soyez pas plus haut quand on regarde, par exemple, les scores annoncés dans les sondages dans quasiment toutes les grandes villes de France? Je pense à Rouen, je pense à Nantes, à Lyon, Bordeaux. Tous les candidats écolos sont à plus de 20, pas vous.
Mais parce qu'à Paris, on a une situation qui est une situation différente. Mais moi, je vais plutôt poser les choses différemment. D'abord, je me réjouis du fait que nous sommes à 14, entre 14 et 14,5.
C'est ce supérieur que je vois, à votre score, effectivement, de la dernière élection municipale.
Largement supérieur. Nous sommes aujourd'hui en dynamique. Et puis, il y a les sondages, mais il y a aussi ce que je vois sur le terrain. Ça fait des mois et des mois que nous faisons campagne dans tous les arrondissements et que nous voyons qu'il y a un vrai désir d'écologie, un vrai désir de changement, un désir aussi de renouvellement de nos listes.
Incarné
qui sont
par plusieurs candidats, d'ailleurs, peut-être
non,
à Paris, peut-être
renouvelés.
Plus qu'ailleurs.
Oui, mais l'écologie, vous savez, ça fait des années que nous portons un certain nombre de propositions, d'ailleurs des propositions qui étaient cohérentes, des propositions qui trouvent d'ailleurs un écho chez beaucoup de nos concurrentes et concurrents, et je m'en réjouis, même si on est aujourd'hui un peu dans le bal des convertis. Eh bien, c'est important aujourd'hui qu'il y ait un certain nombre de consensus. Mais vous savez, il faut agir. Et il faut agir maintenant. On a fait la piétonnisation des berges de Seine, nous l'avons proposée en 1989. On a mis 30 ans
Anne
de
Hidalgo
lutte.
L'a mise en place.
30 ans de lutte pour que, en effet, nous ayons aujourd'hui la piétonnisation des berges de Seine. On ne peut plus attendre 30 ans. Et c'est ça, c'est ce que les gens nous disent. Il faut agir, et agir maintenant, et agir avec tout le monde.
Alors David Belliard, faisons un petit point. Gare, qui a été le mot du week-end dans cette campagne parisienne.
Ça ne vous a pas échappé.
Exactement. Donc la gare de l'Est d'abord. C'est Benjamin Griveaux qui propose de la déplacer pour la mettre porte de la Villette et remplacer la gare de l'Est telle qu'elle est aujourd'hui par un Central Park à la française. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée?
Ce projet, il va retrouver la liste des longs projets inutiles, comme par exemple la Tour Triangle, la ZAC Bercy-Charenton. Je m'excuse pour les auditeurs et auditrices qui ne sont pas de Paris, mais c'est un projet de bétonisation, de création de 6 tours dans le 12e arrondissement. Ce sont des projets qui sont des projets de bétonisation, ce sont des projets qui ne répondent pas à l'enjeu, à l'urgence climatique, qui ne va pas améliorer la qualité de vie des gens qui utilisent cette gare. Et je peux vous le dire parce que moi, je suis un utilisateur de la gare de l'Est depuis extrêmement longtemps. Non, on peut faire différemment.
Et alors, l'autre gare qui a fait parler ce week-end, c'est la gare du Nord. Là, c'est Cédric Villani avec qui vous espérez peut-être construire une coalition climat. Il veut déplacer les arrivées et les départs des Eurostars et des Thalys à Saint-Denis. Ça, c'est une bonne idée ou pas?
Je ne crois pas aux ces projets pharaoniques. Je pense qu'il faut aujourd'hui utiliser ce que nous avons déjà. Il faut reconquérir les berges du fleuve. Il faut reconquérir nos rivières. Il faut reconquérir les abords de nos canaux. Il faut refaire une ville de proximité. Je ne crois pas du tout en ces projets pharaoniques qui ne répondent pas à l'urgence climatique, qui ne répondent pas aussi à l'amélioration de la qualité de vie des Parisiennes et des Parisiens.
Du coup, il y a effectivement encore un petit peu de travail pour arriver à
des positions.
C'est
pour ça qu'il y a une campagne électorale. C'est pour ça qu'il y a une campagne électorale. Nous avons des projets qui sont des projets singuliers et celui que nous portons est un projet particulièrement singulier, oui.
Merci beaucoup David Béliard d'avoir été mon invité.
Europe 1. Et votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 jusqu'à 20h avec la suite du programme Nathalie Lévy.
Et oui, on va regarder nos pieds ce soir. C'est pas une blague, hein. Les baskets, c'est un marché colossal. On va s'y intéresser. Et puis, bien sûr, rendez-vous demain, le Brexit. On en parle toute la semaine.
Vous écoutez Nathalie Lévy jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec Nathalie Lévy et tous les soirs, juste avant 19h30, Nathalie, on prend un temps d'avance et on regarde ce qui va se passer demain.
Et oui, en France, pour commencer, avec une nouvelle étape du marathon judiciaire entamé depuis 5 ans maintenant par les anciens salariés de l'usine Goodyear d'Amiens. Bonsoir Lionel Gougelot.
Oui, bonsoir Nathalie.
Alors, ils seront 800, hein, c'est énorme, demain, pour cette audience exceptionnelle du Conseil des Prud'hommes. Objectif, contester le motif économique de leur licenciement. La fermeture, c'était en 2014, hein.
Oui, effectivement. Et vous savez, en fait, on va assister demain à un remake de la première audience de ces prud'hommes qui avait eu lieu déjà en octobre 2018. Une grande salle du Palais des Congrès d'Amiens, spécialement aménagée pour accueillir 800 ex-Goodyear, des anciens salariés, qui veulent que les dirigeants de leur groupe soient condamnés pour licenciement abusif. Mais la première audience de ces prud'hommes, eh bien, elle avait débouché sur une impasse il y a un an et demi, les quatre juges n'étant pas parvenus à se mettre d'accord sur une décision. Alors demain, donc, rebelote, avec cette fois ce que l'on appelle un juge départiteur. C'est un magistrat professionnel qui viendra examiner le dossier aux côtés des conseillers prud'homaux. Et encore une fois, Evelyne Becker, ex-déléguée CGT chez Goodyear, prévient, ils seront nombreux, ces anciens salariés, à venir réclamer des comptes à Goodyear.
Il n'y avait pas de justification économique à la fermeture de cette usine et c'était uniquement dans un but financier organisé de longue date. C'est une lutte qui a été longue. Les salariés l'ont menée avec la CGT et on ne peut pas baisser les bras aujourd'hui parce que pour certains, ils sont encore dans des situations précaires et c'est très, très, très dur. C'est une étape très difficile de leur vie.
Soyons clairs, Lionel, est-ce que les ex-Goodyear vraiment ont l'espoir de voir leur combat aboutir ?
Eh bien écoutez, oui, parce que selon leur avocat, la présence d'un magistrat professionnel avec ses conseillers prud'homaux est un plus pour défendre certains arguments juridiques qui mettent en cause le groupe américain. Cela dit, les salariés de Goodyear ne sont pas au bout de leur peine. À l'issue de l'audience de demain, la décision sera mise en délibéré, rendue dans quelques mois. Et quel que soit le jugement, il y aura sans doute appel de l'une ou l'autre des parties. Vous le voyez, le marathon est encore loin d'être achevé.
Quelques mois, voire quelques années. Donc merci beaucoup Lionel Gougelot, correspondant Europe 1 dans les Hauts-de-France. Merci à vous. Et puis rendez-vous spécial toute cette semaine, juste avant le Brexit. Vendredi prochain, qui donnera lieu à un grand forum sur Europe 1 dans notre 18-20h. Alors, demain le Brexit, c'est comme ça que cela s'appelle. Nous allons revenir sur cette relation compliquée entre le Royaume-Uni et l'Europe. Bonsoir Emmanuel Calafiore.
Bonsoir Nathalie.
On commence par le commencement, c'est-à-dire en 1967 et cette entrée dans l'Europe, pour le moins difficile. Hein.
Nous sommes en 1967 quand les Beatles nous disent « Hello, goodbye ». Pour la seconde fois, le Royaume-Uni est interdit de communauté européenne. Pourquoi ? Parce que le général de Gaulle ne veut pas.
La Grande-Bretagne a posé sa candidature au marché commun. L'Angleterre, en effet, elle l'a fait après s'être naguère refusé à participer à la communauté qu'on était en train de bâtir. L'Angleterre a demandé à son tour à y entrer, mais suivant ses propres conditions.
Il se murmure que le général n'a toujours pas digéré le règlement du conflit de la Seconde Guerre mondiale. Il a été exclu de la table des négociations à Yalta. En fait, de Gaulle en veut toujours à Churchill et donc au Royaume-Uni. Sauf qu'arrive le 9 novembre 1970. Jean Gorini, sur l'antenne d'Europe numéro 1, prend le micro pour annoncer « essoufflé ». Une nouvelle tragique.
Fait considérable dans la vie française. Le général de Gaulle, ancien président de la République française, est mort hier soir à Colombey, en fin d'après-midi, vers 19h30, 20h.
Alors ça y est, à ce moment-là, Emmanuel, plus aucun obstacle ne s'oppose à l'entrée du Royaume-Uni dans le marché commun.
Plus aucun obstacle, et ça y est, le miracle a lieu en 1973. D'accord pour le miracle, mais bon, l'adhésion ne sera validée qu'après demande au peuple britannique. Donc, déjà, un référendum. Et le 5 juin 1975, à 67%, c'est le oui qui l'emporte. Le Royaume-Uni intègre la CE. L'histoire d'amour avec l'Europe peut commencer. Mais ironie du sort, Margaret Thatcher est devenue la chef des conservateurs et la dame de fer n'a pas vraiment envie de se soumettre à l'Europe.
So don't forget it.
1975, le tube du groupe britannique Ten CC semble un peu mettre en garde tout le continent. Le Royaume-Uni n'est pas amoureux. La lune de miel sera de très courte durée.
Oui, mais nous, la lune de miel, on la continue avec vous, Emmanuel Calafiore, parce qu'on aime beaucoup ce rendez-vous, c'est imagé et le son, le fond. Merci à vous. Demain, le Brexit, on verra l'arrivée aux affaires de la Dame de Fer, Margaret Thatcher. On vous promet de nouveaux morceaux, donc.
Europe 1. À suivre, Nathalie Lévy sur Europe 1.
Le rappel des titres est juste après 19h30. On enfile sa basket, ses baskets, à tous les pieds. Elle dit quoi, tiens, de notre société, de notre rapport à la mode. Et puis, on monte le son. Ah oui, on monte le son carrément. One Night of Queen, le tribute band du groupe mythique, en tournée dans les zéniths de France et partout dans le monde. C'est quoi, tiens, un tribute band? On va s'interroger. On va interroger celui qui les a lancés en France. C'est un carton. Et pour cause.
Sur les baskets ou sur Queen, si vous avez envie de réagir, vous avez la parole sur Europe 1. N'hésitez pas, ça se passe au 39-21. Et sur Twitter avec le hashtag Europe 1, votre grand journal du soir se poursuit avec Nathalie Lévy. La suite de votre grand journal du soir à 19h30 sur Europe 1, Nathalie Lévy.
Avec Isabelle Millet pour le rappel des titres.
Et pas de nouveaux cas de coronavirus en France. Le directeur général de la Santé donne par ailleurs des nouvelles rassurantes des trois personnes hospitalisées à Bordeaux et à Paris. Leur état s'est stabilisé. Quant au rapatriement des Français de Wuhan, il est en cours de préparation et devrait intervenir dans les prochains jours. À leur arrivée, tous seront placés en quarantaine. Édouard Philippe à Auschwitz en Pologne, entouré de lycéens français à l'occasion du 75e anniversaire de la libération du camp nazi. Tandis qu'Emmanuel Macron était au Mémorial de la Shoah à Paris, la République doit être un rempart face à la résurgence de l'antisémitisme, a redit le président. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, annonce dans La Voix du Nord qu'il est candidat en tant que tête de liste aux élections municipales dans sa ville de Tourcoing, dans le Nord. Suspense terminé pour le monde de la gastronomie française qui retenait son souffle avant l'annonce du palmarès du guide Michelin. Trois nouveaux restaurants triple étoilés voient le jour, notamment pour la première fois celui d'un chef japonais, Kei Kobayashi, installé à Paris. Premier chef japonais donc à obtenir cette récompense suprême en France. Trois étoiles également pour Christopher Coutançois à La Rochelle et pour Glenvielle au Beau-de-Provence.
Merci Isabelle. Et vous revenez à 18h demain pour de nouvelles infos. Encore une nouvelle journée d'hiver demain, Anissa.
Oui, effectivement, il y a une perturbation qui balaye la France actuellement. Là, d'ailleurs, il pleut de Strasbourg jusqu'à Bordeaux sur une grande diagonale. Il pleut sur toute la façade est actuellement. Et bien, demain, en début de journée, sur le Languedoc-Roussillon, la vallée du Rhône, la Provence et la Côte d'Azur, votre journée va commencer avec des brumes et des brouillards. Soyez prudents si vous prenez la route tôt demain matin dans le sud-est. Alors, je vous rassure, ces brouillards vont se dissiper au fil des heures et l'après-midi, vous aurez un temps sec. Vous serez d'ailleurs les seuls en France à avoir un temps sec demain puisque partout ailleurs il va pleuvoir. C'est un ciel de traîne, une traîne active qui se met en place sur les Vosges, le Jura, les Alpes. Il va neiger à basse altitude à partir de 400 mètres. Attention au nord-ouest, en Bretagne et sur le Cotentin, sur la Haute-Normandie également, les averses pourront prendre demain après-midi un caractère orageux. Le vent de sud-sud-ouest souffle sur toute la France demain sans exception, avec sur la pointe bretonne et normande des pics jusqu'à 120 km/h. 2 à 10 degrés sont les températures demain matin, qui sont 12, dans l'après-midi 8 à 16. Europe 1. La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, avec ce soir vos invités qui nous parlent d'un phénomène qui nous concerne tous, petits et grands.
Oui, petits et grands, vous l'avez dit. Est-ce qu'on a tous nos baskets aux pieds ce soir dans ce studio? Bonsoir messieurs, Pierre Demoux et Frédéric Gondard. Bonsoir Pierre Demoux, vous êtes journaliste aux Échos, auteur de l'Odyssée de la basket ou comment les sneakers ont conquis le monde, paru il y a quelques semaines aux éditions La Tango et qui a obtenu là récemment le prix lycéen du livre d'économie hein,
c'est ça, oui.
En décembre. Bonsoir. Frédéric Gondard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en sociologie de l'Université Columbia à New York, professeur de management à l'INSED et auteur de Sociologie de la mode aux éditions La Découverte il y a quelques années cette fois. Est-ce que vous avez des baskets aux pieds?
Oui, je me suis dit que c'était de circonstance. Inadapté de venir avec.
Bon, alors, le marché mondial de la basket est évalué à 80 milliards d'euros, vous le dites dans votre livre. Aujourd'hui, la basket, on en voit partout, on en vend partout, les enfants, les adultes, en toutes circonstances, on porte des baskets. Pourquoi en est-on là?
Alors, d'abord parce que c'est à la mode, ça paraît tout bête, mais c'est vraiment la mode qui construit aussi ces phénomènes-là. Et il y a le deuxième élément fort, c'est parce que c'est une chaussure pratique, confortable, puisqu'au départ, c'était une chaussure pensée pour le sport, justement, pour la pratique sportive. Donc ça a permis voilà, d'évangéliser les gens. Et c'est aussi la victoire du sport comme valeur forte dans la société. Le sportswear aujourd'hui, c'est vraiment la grande tendance à la mode. Donc voilà, tous ces éléments mis en place font que la basket s'impose. Et puis il y a un dernier élément qui marque et qui est vraiment très fort dernièrement, c'est l'affaiblissement des codes vestimentaires. Ah oui. Qui fait qu'aujourd'hui, on peut porter des baskets un peu partout.
Avec une jupe.
Oui,
voilà, au travail.
Au travail,
bureau,
en toutes circonstances. C'est ce que je dis. Aujourd'hui, une chaussure sur deux, vous le dites, hein, est vendue en France, c'est une paire de baskets. C'est quand même assez hallucinant. Du coup, Frédéric Godard, la question qu'on se pose, c'est ça dit quoi ? Ça dit quoi de notre société, ce port outrancier de la basket ? Homme, femme, tout être humain confondu. Enfin.
Alors, c'est pas mal de choses. D'ailleurs, au départ, la basket, c'était quelque chose de très masculin. Hein. C'est très récemment que ça s'est imposé dans le vestiaire féminin. Je dirais que ça dit deux choses. D'abord, ça confirme cette grosse tendance de fragmentation, d'individualisation de la mode, où chacun porte ce qu'il veut, quand il veut, avec des influences stylistiques qui viennent de partout, en permanence. Mmh. Facilité par la mode rapide ou la fast fashion, qui nous donne en permanence des nouveaux vêtements, et le vintage, qui nous permet aussi de revenir en arrière. Et le deuxième, c'est que c'est quand même s'il y a cette fragmentation, il y a une forme d'unification. C'est-à-dire que avant le 19e siècle, il y avait les différentes classes sociales qui étaient très marquées. Bon, elles sont encore marquées, mais elles sont différentes. Et on portait soit des chaussures en cuir, soit des sabots. Maintenant, tout le monde porte des baskets, parfois qui ont le même prix. Donc, c'est pour moi assez intéressant.
Voire plus cher.
Ouais, voilà. Bien sûr.
Et on en reparlera de ça.
Alors, on va se parler dans une seconde, vous donner des chiffres, évidemment. On va regarder de près le marché de la basket, Pierre Demoux, hein, parce que vous vous êtes penché dessus dans le détail dans votre livre. On est ensemble avec également Frédéric Godard, docteur en sociologie. On se retrouve dans une seconde.
Votre grand journal du soir avec Nathalie. Nathalie Lévy et ses invités, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy et ses invités. Et on s'intéresse à la folie des sneakers aujourd'hui. Tout le monde ou presque porte des baskets et on essaye de comprendre ce phénomène avec vos invités, Nathalie.
Le livre de Pierre Demoux, j'ai presque peur. Mais oui, eux aussi l'ont chanté, évidemment. Pierre Demoux, votre livre d'Odyssée de la basket, basket, sneakers, tennis ou même pompe. Et puis Frédéric Godard, vous êtes docteur en sociologie à l'Université Columbia New York, entre autres. Dites-moi juste, parce qu'un auditeur aimerait bien vous poser une question, Pierre Demoux, d'où vient au fond ce code vestimentaire de la basket, là, comme ça, à outrance, un peu partout, à tous les étages ? Ça nous arrive des États-Unis ?
En partie, oui. Au départ, c'est la mode américaine qui fait que ça a diffusé ça en Europe.
Mais à une telle échelle ?
Il y a le côté aussi, le phénomène urbain, la mode urbaine, la street culture qui venait des quartiers au départ américains, qui s'est diffusée, qui est devenue là aussi une des valeurs fortes de la mode. Le streetwear, c'est vraiment la grande tendance. Et dans ce streetwear, il y a les baskets et les gens qui portaient les baskets ont pris le pouvoir.
Frédéric Godard, il me semble que des dirigeants, l'économie mondiale aujourd'hui, des dirigeants qui sont en Californie, ont des baskets pour aller bosser, non ?
Oui, je dirais que les baskets, elles font partie d'un look californien de start-upper qui s'impose au monde entier au fur et à mesure que la puissance de l'économie californienne s'impose au monde. On parle de t-shirts, de hoodies, de baskets, ou sneakers, tout ça va ensemble en fait.
Ouais, c'est ça, donc si on regarde bien, les grandes entreprises mondiales en fait, font passer en quelque sorte leur message aussi par le biais du vestimentaire.
Oui, et c'est une façon aussi de s'imposer par rapport aux élites précédentes qui portaient les chaussures en cuir, des costumes. Maintenant, on porte des baskets.
Pierre nous appelle de Vendée. Bonsoir, Pierre.
Bonsoir, Nathalie. Bonsoir, Europe 1.
Bienvenue à vous. Une question, peut-être.
Oui, voilà. Alors, je voulais savoir si on parlait de basket ou de tennis, ou des deux dans un plan général. Parce que, de mon souvenir, dans les années 70, tous les ados portaient des tennis. Certains des baskets comme les Converse ou d'autres modèles de chez Adidas par exemple qui étaient très
pour ne pas les citer. Alors Pierre Demoux et Frédéric Godard, allons-y. Basket, tennis, comment on fait la différence ? C'est effectivement sur la quatrième de couvre de votre livre.
Alors aujourd'hui, en fait, on n'a plus d'autre tendance à dire sneakers. Les plus jeunes disent sneakers, donc sans vouloir catégoriser les gens.
Les plus jeunes disent sneakers.
Les plus jeunes disent sneakers, parce que c'est le terme américain, le terme d'origine. Donc si vous dites basket, voilà, vous êtes déjà un peu dans la tendance passée. Si vous dites tennis, voilà, vous êtes encore un petit peu plus âgé, pour rester poli. mais voilà, c'est trois versions différentes d'un produit qui est globalement le même, même s'il y a des
sous-catégories.
Voilà, c'est ça.
Oui, allez-y Frédéric Godard pour compléter.
Oui, on en parlait tout à l'heure, c'est l'aspect sémantique, l'évolution du terme. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a qu'en français qu'on dit basket, ça doit venir peut-être des Converse, des basketball dans les années 20-30.
Au départ, c'est les chaussures de basket
qui sont transformées ensuite et qui s'installent dans le quotidien.
À partir du moment où elles reviennent sur le tennis, peut-être avec les Stan Smith, etc., on parle de tennis. Ouais. Et je je pense qu'à l'heure actuelle, les termes sont interchangeables, honnêtement. Oui.
Et alors, cette folie des sneakers, donc je vais m'y mettre, on imagine qu'une fois qu'elle est installée, ça va perdurer ? Oui, ou c'est une espèce de cycle comme toute la mode dans sa globalité. Il y a des cycles dans la mode, tout le monde le sait. Les pattes d'Ève qui reviennent toutes les 30 ans, par exemple. Ça peut être pareil pour les sneakers, où on est dans quelque chose de tellement installé qu'a priori...
Alors, moi, j'ai l'impression qu'on est parti pour avoir une vague de sneakers encore pour de nombreuses années. Mm-hmm. D'abord parce qu'il y a un effet démographique. C'est-à-dire que les gens qui, avant, arrêtaient de porter des sneakers globalement au moment de l'entrée dans la vie active, mm-hmm. aujourd'hui peuvent continuer d'en porter au travail, dans d'autres occasions. Donc, ils n'ont plus de raison d'abandonner les sneakers et qui sont une chaussure confortable et pratique, comme je disais tout à l'heure. Donc, il n'y a plus ce côté on rentre dans la vie adulte, on laisse les baskets de côté.
Est-ce qu'il y a déjà eu, Frédéric Godard, une telle folie, entre guillemets, une telle folie pour un vêtement dans l'histoire ?
Alors, il y en a beaucoup, hein, je dirais. Je suis d'accord, je rejoins l'analyse en disant que les sneakers sont là pour rester. D'une certaine façon, les chaussures traditionnelles en cuir, elles deviennent une forme de sous-culture minoritaire avec les aficionados, etc. Le jean, le t-shirt, les hoodies, etc., etc. Donc, ces modes, ces grands mouvements, ils vont, ils viennent. Je ne suis pas à Paris que d'ici une quinzaine d'années, avec une nouvelle génération, on reviendra vers les chaussures traditionnelles.
Bon. Dites-moi, on parle un peu business, si je puis me permettre, parce qu'il y a toute la partie fabrication, c'est le côté sombre. Si on va en Chine, on sait bien que la production, elle se fait essentiellement là-bas. Et ce n'est pas toujours effectivement dans les meilleures conditions, Pierre Demot et Frédéric Godard.
Oui, alors c'est aussi, la basket, en fait, raconter l'histoire de la basket, c'est aussi raconter l'évolution de la mondialisation. C'est-à-dire que les usines, au départ de basket, étaient aux États-Unis et en Europe, sont parties globalement dans les années 70-80 en Asie. La Chine est devenue aujourd'hui le premier pays producteur de basket. Mais là aussi, la mondialisation évolue parce que les salaires augmentent en Chine. Donc, c'est d'autres pays qui prennent le relais. Et la Chine subit à son tour des délocalisations d'usines vers le Vietnam, vers l'Indonésie, vers d'autres pays où les coûts salariaux sont un petit peu moins élevés. Donc voilà, c'est les différentes vagues de mondialisation qui sont illustrées par la basket.
Au-delà des aspects liés au travail, il y a aussi l'aspect environnemental qui est fondamental avec les baskets. Des milliards de baskets sont créées chaque année, fabriquées chaque année. Il y en a des centaines de millions qui sont jetées. Beaucoup sont en plastique, en caoutchouc, etc. Pas recyclées. Donc, les grandes marques de baskets essayent de faire des efforts, mais on a quand même face à un vrai problème environnemental.
Il y a une communauté aujourd'hui, les sneakerheads, fans de baskets, communauté apparue au début des années 70. C'est vraiment à échelle mondiale, cette communauté ?
Oui, aujourd'hui, et ce n'est pas seulement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, juste des adolescents dans leur coin.
C'est des connaisseurs, vraiment.
C'est vraiment des connaisseurs, de la même manière qu'il y a des connaisseurs en vin, il y a des connaisseurs en basket. Des gens qui peuvent échanger entre eux, qui peuvent avoir qui font du business, entre guillemets, de la revente d'occasion. Donc il y a vraiment quelque chose, il y a toute une communauté avec des valeurs, toute une culture aussi, qui existe, qui est propre à cet univers-là.
Il existe un musée de la basket ou pas, Frédéric Godard ?
Vous posez une colle, j'en suis sûr.
Je vous laisse réfléchir. Juste un mot du prix, parce que les baskets, les sneakers, on est quand même dans des prix élevés, globalement. Peut-être sauf vraiment des choses de base, des modèles de base, mais qui a envie, d'avoir le modèle de base ?
C'est justement là où on peut se dire que les baskets sont là pour longtemps. C'est que les modèles de base, justement, sont des modèles à petit prix qui séduisent d'autres gens qui veulent des baskets uniquement pour le côté confortable. C'est par exemple les seniors qui veulent porter des chaussures pour aller jardiner ou pour se promener. Et à l'autre bout du spectre, on a effectivement des modèles qui peuvent aller à plusieurs centaines, voire milliers d'euros. Donc là, ça couvre vraiment toute la population et tous les besoins de la mode.
Juste un mot encore, Frédéric Godard. La place de la France sur le marché mondial de la basket, ça représente quoi ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que, alors que la France est vraiment très présente dans l'industrie de la mode, avec ses grands groupes, des marques extraordinaires, je dirais qu'elle... Avec certaines marques, elles donnent le goût de l'avant-garde. Donc, on a vu ça dans les défilés récemment. Je ne vais pas citer de marque, mais on voit de qui je veux parler. Par contre, sur les grands producteurs, Nike, Adidas, etc., sont toujours numéro 1 et 2. Et donc, il n'y a pas de marque française.
Il n'y a pas de marque française. Hein. Anissa, d'un mot.
Il y a un musée de la basket. Le Muséum Sneakers, et c'est à Marseille, cours Julien, pour ceux qui veulent aller voir. Il y a des baskets de 1964. Les premières Stan Smith.
Parce qu'on est has-been.
Oui, c'est entre nous.
Merci beaucoup, messieurs Frédéric Godard, docteur en sociologie à Columbia, New York, l'université, professeur également. Et puis Pierre Demoux pour ce titre, l'Odyssée de la basket, comment les sneakers ont conquis le monde. Et ce prix de décembre 2009 le prix lycéen du livre d'économie. Merci à tous les deux.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
La suite de votre grand journal du soir jusqu'à 20h en musique, Nathalie Lévy.
Stop me now, I'm having such a good time.
Pour une fois que je connais. Ils ont des sneakers, évidemment. Et quels sneakers ? Le tribute band du groupe Queen dans les Zéniths de France et partout dans le monde. C'est un carton phénoménal. Dans un instant, le producteur, l'heureux producteur de cette tournée, Richard Walter, il va s'installer à mes côtés dans ce studio.
Et votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est tous les jours jusqu'à 20h. Et à chaque fois, on parle culture en fin d'émission. Et aujourd'hui, on parle musique, Nathalie Lévy.
Oh là là, oui, le show must go on et le show go on avec vous, Richard Walter, bonsoir, bienvenue. Vous Merci. Êtes l'europroducteur du spectacle One Night of Queen, le tribute band le plus important du moment, voire du monde.
Oui, c'est aujourd'hui le plus grand tribute band au monde. Il y avait Australian Pink Floyd et là on est passé numéro 1.
Est-ce qu'on peut faire un petit rewind? J'entends oui. par là tribute band, tout le monde ne sait pas encore ce que c'est. Voilà. Enfin, en tout cas, quelques-uns peut-être. Expliquez-nous exactement.
Donc en fait, tribute, ça vient de l'anglais pay tribute to, qui veut dire rendre hommage à quelqu'un. Et donc ces artistes, ce que nous on essaye de faire, donc le concept s'appelle Rock Legend, et c'est permettre aux gens de revivre l'espace d'un soir, un concert légendaire qu'ils ne pourront plus jamais voir, puisque depuis, par exemple, que Freddie Mercury nous a quittés, on ne peut plus voir le Queen de Freddie Mercury. Oui. Et donc, il existait aux États-Unis et en Angleterre un certain nombre de groupes, puisqu'il y en a des milliers et des milliers. Et moi, j'ai un jour un ami à moi qui est un agent anglais qui m'a dit « Richard, toi qui es fan de Led Zeppelin, il faut que tu viennes à Londres, il y a un groupe dans un club là ». Le mec, c'est Robert Plant et Jimmy Page. Et je lui dis, comme tout le monde au début en France, c'est ça, je vais prendre un avion, aller à Londres pour voir un tribute band. Et il me dit, fais-moi confiance, viens. Donc je suis allé dans le club, la lumière s'est éteinte. Et au bout de 5 minutes, je pensais voir Jimmy Page et Robert Plant. Et là, ça s'appelait Led Zepp. Et je les ai fait venir en France. Et Robert Plant est allé les voir lui-même à Londres. Et quand tout le show, et à la fin du show, il a dédicacé I entered the venue and I saw myself on stage. Ce qui veut dire que je suis rentré dans la salle et je me suis mis sur scène. Et au dernier concert que Led Zeppelin a fait à Londres, au U2, là, il y a 10 ans, ils ont invité personnellement Billy Culk, le chanteur, parce qu'ils voulaient absolument qu'à l'after, il soit présent pour le dernier concert de Led Zeppelin.
Alors pareil, refaisons évidemment le film si vous le voulez bien, parce que moi je voudrais comprendre, Richard Walter, donc il faut les dégoter, ces artistes incroyables qui sont pas des pâles copies, si je comprends bien.
Non.
Qui sont
la réincarnation, absolument. Et après ce concert, je me suis dit, mais c'est dingue. Donc finalement, ça peut être possible, je peux revoir et remettre sur scène tous les artistes que j'ai rêvé de voir. Et donc la magie d'Internet, c'est YouTube.
Ouais.
Donc j'ai cherché partout, en Angleterre, aux États-Unis, je suis allé voir des groupes à Los Angeles et à Londres, et là j'ai découvert que parmi les dizaines de groupes, il y avait 5-6 groupes où les chanteurs sont incroyable. Et moi, j'ai produit dans ma vie Pink Floyd, le vrai, j'ai produit U2, Patricia Cass, j'ai fait 6000 concerts avec toutes les stars.
Vous n'avez aucune raison de vous tromper.
Donc je sais reconnaître un talent d'un artiste. Bien sûr. Ces gens-là sont incroyables. Vous revivez vraiment quand la lumière s'éteint. Vous allez passer 2 heures, et je vous garantis, on était à Paris, à la scène musicale, devant 5000 personnes, à Strasbourg, il y a 2 jours, devant 7000. Quand les gens sortent, ils ont vécu vraiment... Pendant 2 heures, ils ont revu Freddie Mercury.
Quand on ferme les yeux, on entend Freddie Mercury.
Ah oui.
Ok.
Et quand on les ouvre, on le voit.
Et on le voit. Oui. Alors, on écoute aussi. Là. Ah oui, ça c'est le tribute band.
Ça c'est
Gary Mullen. Bluffant. C'est en live.
Voilà,
en live.
Tout à fait.
Et ça, c'est des artistes qui peuvent sortir un album, alors.
Oui.
Mais ça n'a pas vocation.
Il faut savoir, par exemple, One Night of Queen, c'est 200 concerts dans le monde, c'est-à-dire aux États-Unis, en Australie, en Amérique du Sud, en France. Non, le but, c'est vraiment parce que ce qu'il faut l'avoir vu, parce qu'il habite, il bouge comme Freddie. On a le même matériel qu'ils avaient. Les costumes sont faits par la costumière de Freddie Mercury. Et la plus belle histoire, c'est donc le fameux jour.
Ou la maman. Voilà. Alors, racontez-nous, la maman de Freddie Mercury, elle voit le show. Voilà. Qu'est-ce qu'elle vous dit?
On reçoit un coup de de téléphone qui nous dit, voilà, c'était la sœur de Freddie Mercury qui nous dit, j'aimerais voir. On a entendu parler de Gary Mullen, on a entendu dire que c'était fabuleux et maman voudrait venir le voir parce que comme toutes les mamans, elle collectionnait évidemment les disques d'or, les autographes. Donc on dit, c'est une blague et je dis à Gary, tu sais quoi, on va quand même mettre l'invitation. Elle arrive et à la fin du concert, elle lui tombe dans les bras, elle lui demande un autographe.
Quelle émotion, bah oui.
Gary Mullen et lui dit, grâce à vous, j'ai vu mon fils vivant ce soir.
C'est dingue parce que on voit effectivement et on entend cette sonorité, cette puissance. Vous êtes obligé de respecter des codes quand vous allez chercher ces groupes, quand vous dégotez ces groupes. Des codes, j'allais dire, pour pas tromper les fans et pour pas tromper les parents vivants.
Le code numéro un, c'est que moi, je suis fan de tous les groupes dont j'ai fait des tributs.
Donc, par exemple, Led Zepp, ABBA, Supertramp, Queen,
etc. Donc, il faut déjà qu'ils me convainquent, moi, qui suis le fan numéro un. Ensuite, il faut que la qualité artistique de la personne soit donc gigantesque. Parce qu'on parle, j'ai fait le rêve de ma vie, Jimi Hendrix à l'Olympia pour le 50e anniversaire de Woodstock. Et j'ai vu Jimi Hendrix sur scène, c'était en octobre de l'année dernière. Donc vous imaginez un peu à qui on se mesure.
Mais vous ne faites pas d'adaptation des chansons, chansons à l'identique.
C'est pire que ça, c'est-à-dire les gens qui connaissent Queen savent tous que les derniers concerts de Queen, notamment à Wembley, Queen avait un light show vraiment très spécial. C'était des très gros carrés avec une centaine de projecteurs par carré. Si vous regardez les vidéos, tout le monde le sait. Donc on a refabriqué les mêmes. Pour que le show que vous voyez n'est pas juste un tribut, c'est vous revoyez le dernier show que Queen a fait exactement à l'identique.
C'est ça, c'est-à-dire que toute la mise en scène, etc., tout est fait pour que le concert se déroule comme si on y était.
Pour que la magie se fasse, c'est un voyage dans le temps et l'espace d'un soir de revivre un concert impossible.
Juste une dernière question, on va entendre du son, mais juste, vous n'avez jamais essayé de le faire dans l'autre sens et vous vous êtes peut-être même interdit ça, c'est-à-dire faire en sorte d'être adoubé d'abord par la famille ou par l'entourage proche de l'artiste pour ensuite signer les artistes.
Non,
jamais.
Non, c'est-à-dire nous, on essaie d'abord, on monte quelque chose et après on les invite et après ils nous disent si ils le valident.
Donc c'est un risque quand même, mais la preuve ça fonctionne.
C'est notre métier.
C'est ça. Encore le live du Tribute Band, One Night of Queen, hein, qu'on entend et ça. Franchement, c'est hyper troublant. Merci beaucoup, Richard Walter.
Et vous êtes... je vais juste dire, on revient donc à Paris en septembre, puisque la tournée là était complète. Et le 21 septembre, on finit la tournée française au Palais des Sports, c'est-à-dire la salle où Queen a commencé.
La boucle est bouclée. N'est-ce pas, Émilie Morézoyer ? La boucle est bouclée, là. Hein.
Mais
c'est
tellement.
Super.
Moi, j'adore l'idée. Moi, j'avais vu il y a quelques années à New York, Les Zeppelin, c'était des filles.
C'est
génial. Je les connais. Elles sont très bien.
Elles sont super, hein.
Ouais. Mais c'est pas Robert Plant.
C'est Roberta, ça peut être.
Mais ils sont très très bien, je les connais très bien.
Quelle idée. Alors Émilie Mazoyer, bienvenue à vous.
Pas de chanteur mort, parce que pour les interviews, c'est très compliqué. Donc c'est un nouveau talent, une jeune femme qui vient de sortir son premier album et qui est nommée aux victoires de la musique de ma catégorie Révélation. Elle s'appelle Suzanne. Toy Toy, c'est le nom de son premier album qui est sorti vendredi. Suzanne est notre invitée.
Oh, toutes ces découvertes chez Émilie, ça c'est chouette.
Alors on est branchés assurément avec vous Émilie Mazoyer. Merci à vous.
Merci.
Et nous ici même, demain 18h-20h pour le grand journal du soir, n'est-ce pas Anissa?
Bien sûr, 18h.
Fidèle au poste pour l'info et le sourire. Merci à vous de votre fidélité. Restons ensemble pour écouter Le Monde Changer.
C'était Nathalie Lévy sur Europe 1.